j'annonce le prix et tout. Il y a un mec qui me dit à combien de places. J'ai aucune putain d'idée, tu sais. Genre. Ils étaient 60 dans la salle, je me dis allez, vas-y. J'ai dit 12. Et j'ai dit qui est intéressé, levez la main. Mec, genre, le moment où mon cœur il s'est arrêté de battre, tu vois. Je me suis dit aussi bien. Et je me suis dit allez, il y en a 4 qui vont lever la main. Et là, mec, il y a 40 personnes qui ont levé la main.
C'est beau.
J'ai fait what la the fuck. Grande. Et j'ai dit bah, du coup, il y a que 12 places, donc c'est le premier qui paye. Mec, il y a des mecs qui sont sortis leur chéquier. Il y a des gens, ils sont allés retirer et tout. Ils m'ont filé du cash, ils m'ont filé des chèques et tout. Après, j'ai dit non, mais vous inquiétez pas et tout. On va trouver une solution pour les autres. Du coup, on a fait 2 programmes le lendemain.
Bien
t'as
sûr.
Tombé sur PayPal, bim, 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 bim. Du coup, on a eu 32 inscrits. Mec, j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires en une soirée.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis Mickaël de Start the Fuck Up, bienvenue dans La Galère et j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Gambato, fondateur de Germinal.
Salut.
Enchanté Grégoire. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta carrière ?
Alors ma carrière vraiment brillante hein, qui a commencé avec la vente de cartes Magic en 5e, on y reviendra, qui est passé par un projet incroyable en 2e année de fac. Pour ensuite enchaîner sur 2 projets en Master 1 et en Master 2, toujours autant couronnés de succès. Hein. Pour finalement terminer sur Germinal, c'est la boîte qu'on a lancée aujourd'hui avec mes 2 cofondateurs. On a fait 1,4 million la première année. Et en gros, on fait des missions commando qui durent entre 3 et 6 semaines pour arriver à optimiser l'acquisition client en ligne, soit de grandes boîtes du CAC 40, on en a une dizaine, soit de grosses startups qui ont scalé.
Et tu as presque le ton d'un commentateur sportif, donc peut-être ta prochaine aventure ?
Écoute, je réfléchis à la reconversion. C'est vrai que j'ai toujours eu un certain talent pour commenter. Le problème chez moi, c'est pas le ton, c'est pas l'engouement, c'est vraiment le fond qui laisse souvent à désirer. Mais j'espère qu'aujourd'hui, j'arriverai à dire des choses intéressantes.
On l'espère aussi. Tu nous as dit que tu avais commencé par vendre des cartes Magic, donc c'est de là où on te vient. Ta fibre d'entrepreneur.
Alors en vrai, ça vient même de plus loin, mais on va aller très rapidement sur la première étape. Le premier truc que j'ai vraiment monté, mais j'ai pas fait de chiffre d'affaires, j'ai essayé de revendre des petits déjeuners à mes parents le dimanche matin. Parce que je m'étais rendu compte que le dimanche matin, ils avaient la flemme de se lever. Je m'étais dit, et si je leur vendais des petits déj? Sauf qu'en fait, ça a pas marché parce qu'ils m'ont dit, bah écoute Grégoire, tu nous vends un truc qu'on a déjà acheté. C'est-à-dire que je leur vendais le yaourt et les céréales qu'ils avaient acheté au supermarché. Donc voilà, j'avais un problème de business model, clairement. Mais la première.
Tu les vendais combien?
Je leur avais dit 4 euros le petit déj.
Il avait acheté combien à ton avis? T'avais fait un petit calcul?
Ah écoute, non, ils m'ont juste dit non. Et du coup, ça m'a traumatisé. Et du coup, j'ai pas retenté de boîte jusqu'en 5e. Et là, en fait, je me suis rendu compte d'un problème. En fait, moi, j'étais fan de cartes Magic. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est des cartes à jouer en fait où vous avez des monstres, vous avez des attaques, etc.
Je vais me faire insulter par tous les fans, mais ça ressemble aux cartes Pokémon.
Non, les cartes Magic, c'est plus. Les cartes Pokémon, c'était vraiment ce que j'avais en primaire. Les cartes Magic, en vrai, aujourd'hui, il y a des tournois, des mecs qui ont 25-30 ans, ça ressemble plus à Hearthstone, en fait.
Ouais,
donc, il y a pas une scène. Il y a peut-être une scène en constitution, mais en gros, c'est assez difficile de jouer, d'être assez bon. Alors, peut-être que cartes Pokémon, c'est pareil, que j'ai joué trop jeune, mais. Et en gros, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est... En vrai, moi, j'ai acheté mes blisters, donc c'est 3,60€ à l'époque, si je me souviens bien, à Grenoble. Et en fait, il y avait, ça s'appelait le damier, tu pouvais acheter tes blisters à 3,60€.
Un blister, c'est un paquet de 14 cartes,
c'est ça, exactement.
Tirées au hasard dans les cartes de la saison. Et du coup, si tu veux constituer ton gros paquet, t'es obligé d'en acheter un peu à droite à gauche. Et d'espérer aléatoirement tomber sur les bonnes cartes.
C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le bureau de tabac à côté de chez moi, il les vendait à 5,20€. Et du coup, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, tous les mecs, ils allaient acheter les cartes au bureau de tabac. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est de leur vendre à 4,40€. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre les commandes auprès de tous les gens de la récré en disant, est-ce que tu veux un blister à 4,40€ ? C'est 80 centimes moins cher que le reste. Et du coup, j'ai pris des commandes. J'ai pris 36 ou 40 paquets. Et en fait, j'ai acheté du coup 40 paquets. En plus, pour 36 paquets, tu avais une réduc. Du coup, je les avais encore moins chers. Et du coup, je suis allé à Grenoble. Donc, j'ai mis dans ma compta. D'ailleurs, je m'étais fait une petite compta. Parce qu'à l'époque, j'avais pas trop compris que c'était pas très grave. Et en gros, j'avais mis mon ticket de bus aller, 1,90€. Mon ticket de bus retour, 1,90€. J'avais acheté, j'avais calculé ma marge. Et en fait, c'était ma petite sœur qui tenait ma compta. Ils avaient fait des cartes avec des contrats et tout. On appelait ça Grémat. Parce que Gré, c'était Grégoire et Mat, c'était Mathilde.
Vous avez immatriculé la société, quoi.
Ouais, exactement. Mais auprès de ma petite sœur, quoi. Et du coup, on avait fait 52€ de recettes, donc de marge, enfin de bénéfices, quoi. Non imposé à l'impôt sur les sociétés, on a été plutôt bon.
Ah, pas mal.
Et on a partagé en deux, on a eu 26€ chacun. Et voilà, ça a été ma grande aventure et ma grosse frustration quand j'ai monté cette boîte, en fait, c'est que. Je me suis emballé sur le nom boîte là, mais. C'est qu'en fait, clairement, il y a un mec, il voulait pas m'acheter mes paquets, juste parce qu'il disait, tu te fais de la marge dessus, je préfère les acheter au bureau de tabac, parce que je veux pas te donner de l'argent à toi. Et en fait, ou des fois il me disait, ah ouais, j'ai oublié, je voulais te les commander mais j'avais envie d'aller acheter. Et en fait, c'est ce jour-là, et je me souviens de cette frustration quand ce mec, il s'appelait Tristan, de cette frustration du mec où je me suis dit, en fait, tu peux avoir le meilleur produit, mais le mec, soit parce qu'il t'aime pas, soit parce qu'il a la flemme et qu'il a pas envie
c'est
de commander, il a pas envie
un
d'attendre.
Un enseignement exceptionnel.
Et en vrai, ça m'avait frustré et je crois que ça m'a resté dans toute ma vie d'entrepreneur. Et même maintenant, je me souviens de ce moment où tu peux avoir le meilleur produit, mieux positionné, si tu réponds pas exactement au truc du mec, et un mec qui pourra ne pas t'acheter, qui pourra faire un acte qui est non rationnel. Et ça, ça m'avait à l'époque, ça m'avait vraiment choqué.
T'avançais l'argent ? T'étais en 5
ans ? Ouais, j'avais avancé.
T'avais avancé l'argent ?
Et moi, je suis un ouf, mec. Moi, depuis que je suis petit, je dépense que dalle. Même ma mère, elle nous obligeait à faire de la compta. En fait, on avait des tableurs Excel qu'on devait remplir avec toutes nos dépenses. Et en fait, on devait fournir un justificatif. On était remboursé que, par exemple, 5€, jusqu'à 5€ pour le repas et 30% au-delà de 5€. Et genre, du coup, on devait tenir une comptabilité tous les mois si on n'était pas remboursé. On avait des tableurs pour les fallait vider la vaisselle, fallait préparer la table, etc. Avec les dynamiques en fonction des mois, il y avait des points qu'on pouvait se filer, etc.
Ah ouais. Donc,
en fait, quand j'ai découvert la compta en droit, je me suis dit, mais en fait, ma mère, elle me faisait tenir une comptabilité.
Et pourquoi elle a fait ça, tu sais, c'était son métier, c'était son kiff, elle a l'impression de vous transmettre un truc.
Bah maintenant, c'est elle est comptable et c'est toujours la comptable de la boîte.
Ah, d'accord. Ah,
et okay. Du coup, en fait, en gros, ma mère, elle est vraiment en mode, faut vraiment que ce soit tout bien organisé. Et c'est assez drôle parce que ça m'a vachement marqué. Et du coup, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'était hyper logique de dire, ok, c'est quoi les dépenses, c'est des quotas, comment on analyse ces dépenses. Et du coup, j'avais 12 ans et j'avais mes flux de dépenses en vestimentaire, en nourriture, etc., avec des quotas de remboursement. Et en gros, je pense que ça a été assez important dans ma formation entrepreneur, tu vois. Mais et c'est un truc qui m'est resté. Et même maintenant, je suis hyper calé là-dessus. Enfin bon, bref, c'est assez drôle. Mais du coup, là, c'est vraiment ma première expérience en cinquième. Donc clairement, voilà, 52€ de bénéfice, presque 400, je vais faire 400€ de chiffre d'affaires. Donc vraiment une belle expérience entrepreneuriale.
Pourquoi t'as pas continué ?
Ah, j'ai hésité. Bah, et j'ai pas continué parce qu'en fait, j'avais saturé le marché. Tous les mecs avaient acheté des cartes magiques. Et mes parents à l'époque, c'est la grosse peur qu'ils avaient, c'était que je me mette à vendre de la drogue. Ce qu'ils se sont dit, il va repérer l'opportunité, que les marges sont plus importantes, et ils étaient vraiment hyper flippés de ça. Et en fait, j'ai jamais réussi à trouver la filiale.
Heureusement que tu ne l'as pas fait en troisième.
Ouais, voilà, j'ai jamais ouvert la filière, dommage. Mais je pense qu'il y avait, j'aurais pu faire ça, mais sans me dire que la drogue, c'était mal. Tu vois,
Ok, hyper intéressant. Une prochaine expérience entrepreneuriale après ça ?
Alors après, c'est catastrophe. En gros... J'ai passé avec le vague désir de monter une boîte, tu sais où tu le laisses, mais bon, t'es au collège, t'es au lycée, etc. Et en fait,
tu l'avais en tête au collège et au lycée ?
Ah oui, moi, quand j'étais petit, quand on me demandait ce que je voulais faire, au début, je voulais dire ophtalmo, puis j'ai vu un cœur qui battait, et je me suis rendu compte que quand je voyais le sang, je me mettais à m'évanouir, donc du coup, ça m'a calmé. Et en fait, après, En fait, je voulais monter une boîte. Je me disais, ah, ça pourrait être cool de monter un projet. C'était un peu mon rêve, tu vois. Genre, mon objectif dans la vie, c'était, est-ce qu'on perd entrepreneur, c'était de monter une boîte de la taille de celle de mon père.
D'accord.
Entrepreneur à vif, 4 salariés. Ah, c'est incroyable. Courtier en assurance.
D'accord.
Et du coup, moi, j'étais hyper admiratif. Et tous les soirs, il rentrait, il nous disait, ouais, c'est ouf et tout. On est d'accord que ce podcast tourne à la psychothérapie, hein, clairement.
Mais, bien sûr.
Mais en gros, clairement, voilà, je voulais monter un truc. Et là, j'arrêtais pas de parler avec un pote qui s'appelle Arnaud Bijou Duval à l'époque. Qui maintenant est directeur des opérations chez PrepoCN, c'est un site de learning pour les médecins. Et en gros, on n'arrêtait pas de se faire des soirées, on discutait des boîtes qu'on pourrait monter, on discutait jusqu'à 5h du mat. On pourrait.
Quel âge ça, du coup?
C'était quand j'étais. Là, j'étais un peu plus vieux, j'étais à l'université.
À l'université, ouais, ok.
Sachant que pour info, ouais, j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai loupé mes concours et du coup, je suis à l'université, j'ai fait un master en droit. Et en gros, donc je devais avoir 22 ans. Et vraiment, jusqu'à 5h du mat, on parlait des business qu'on pourrait monter. Et un jour, il me dit, mec, j'ai une idée de business, ça va être incroyable et tout. Et d'ailleurs, je me souviens pas très bien ce que c'était. C'est assez ouf, mais c'était un truc de mise en relation. Tu sais, c'est les trucs de mise en relation. Oui, c'était pour trouver des cofondateurs. Enfin, c'était un projet autour de l'entrepreneuriat, pour t'aider à trouver des cofondateurs. Un peu le Tinder de l'entrepreneuriat, tu vois. Et à l'époque, on pensait que notre idée était hyper valuable et qu'il fallait qu'on la cache et tout.
Ah ouais,
et
les,
en gros,
j'étais
associé avec Arnaud et un autre mec. Et donc moi j'étais à Grenoble, j'étais à Paris, et en fait moi ma seule mission dans l'association c'était de rédiger les statuts juridiques.
C'est-à-dire que tu te lançais avec les statuts,
ouais,
c'était
quand même incroyable.
Les NDA et tout.
Et c'est ça. Et en gros moi je rédigeais les NDA, je rédigeais les statuts juridiques et tout. Et genre ça a été ma première claque d'entrepreneur parce qu'en gros moi je m'étais dit c'est hyper important et genre j'avais passé un mois sur les statuts ou en droit des affaires en dernière année, j'ai eu des pures notes. J'étais tellement chaud.
Servi d'une manière.
Ouais, en amphi, il me disait mais putain mais le mec il est trop chaud et tout. On a l'impression qu'il a bossé en cabinet. Tu parles, j'ai passé un mois sur mes statuts. Et ça a été en fait le premier truc où en fait on n'a jamais réussi à lancer, on a pris des devs qui ont bossé le soir.
Pris des devs?
Ouais, mais tu sais, des cofondateurs, qu'on était 5.
Ah ouais, d'accord. Vous
et on, ça, on avait mis des, ils avaient mis, c'est eux qui avaient mis des petites annonces dans toutes les écoles de Paris et tout.
C'est les devs qui ont fait le marketing.
Et non, mais le dev, en fait, ils ont jamais codé la plateforme, ils ont fait un petit bout. Nous, on n'a jamais vraiment fait le market. En fait, c'est un projet qui est mort-né, tu vois.
Ouais.
Mais ça a été mon premier projet. Je compte pas dans mes expériences de boîte quand j'en parle, mais c'est comme on parle un peu de ce qui se passe au début.
Mais c'est hyper intéressant comme échec. Ça a duré combien de temps total cette période-là?
Franchement, je pense que ça a duré 4-5 mois. Ou genre non, vraiment.
4-5 mois où du coup, t'annonces à tes potes, t'annonces à tes,
ouais,
tes familles, tu te dis, je monte un truc, tu t'engages émotionnellement.
Je fais des réunions et tout, c'est cool.
Socialement.
Je fais des réunions toutes les 2 semaines, machin. Et vraiment, j'y connaissais rien, quoi. Mais rien du tout. Enfin, je me demandais, ma grande question pendant 2 semaines, c'était SAS ou SARL, quoi. Je veux dire, je serais allé voir un avocat, il aurait fait le taf pour 1500 balles, tu vois. Mais en gros, vraiment, je me disais, et puis j'étais trop impliqué, j'étais monté à Paris pour les rencontrer, on s'était fait des réunions à Paris, on avait fait des réunions de crise quand les devs nous avaient lâchés, c'était genre incroyable, mais en fait, je jouais à être entrepreneur, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas conceptualisé ce qu'il y a un besoin. Sur la deuxième boîte, je suis allé plus loin, mais c'était vraiment mon étape 1, c'était vraiment ma bêta, quoi.
On coach,
mon alpha même.
On a coaché pas mal de startups et de boîtes, surtout les étudiants quand ils ont un début d'idée, et c'est exactement ça qui se passe dans les 4 premiers mois. T'es obligé un peu peut-être de. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, t'es obligé de passer par ce stade-là, et t'es obligé de te cracher à la fin et de dire, ok, on a fait 4 mois, on a fait n'importe quoi. Ensuite de te poser, et là après, tu peux peut-être reprendre un projet plus solide. Comment ça s'est fini ce projet-là?
Bah, ça s'est fini, on s'est un peu pris la tête avec, pas avec Arnaud, très très bon, pas toujours le 3e. J'étais monté à Paris, il était pas dispo, il avait fait une nuit blanche parce qu'il avait rencontré une nana, il était arrivé défoncé au rendez-vous alors que je montais à Paris exprès pour le voir et tout. Du coup, j'ai dit, ok, on arrête.
Les tensions humaines.
Ça, voilà, exactement. Et là, ça a été le
boîtes,
non-fit total. Autant avec Arnaud, on est toujours hyper amis et tout, et il vient toujours nous voir. Il est sur le groupe Germinable, on fait des trucs avec lui et tout. Autant, l'autre, j'ai jamais revu. Et enfin, sauf au mariage d'Arnaud. Mais ouais, du coup, non, pas de fit là-dessus. Et en fait, ouais, c'était un non-fit humain avec cette personne. Mais vraiment, mais ouais, je pense, là, pour moi, c'est pas mon premier projet, c'est vraiment resté à l'ordre du fantasme. Et je pense que on est toujours obligé de passer par ce fantasme un peu au début. C'est juste combien de temps ça dure, quoi. Moi, ça a duré 4 mois parce que j'étais mal encadré. Je pense que si j'avais vu des vidéos sur internet, si j'avais écouté ce podcast, etc., je pense que cette étape de 4 mois, elle aurait duré 3 jours, quoi. Sauf que j'avais pas d'infos, j'avais pas accès à l'info. Ça devait être en 2013, il y avait quand même beaucoup moins d'infos. J'étais à Grenoble, l'écosystème n'était pas du tout mature et je m'étais pas bien entouré, quoi.
C'est des informations qui sont difficiles à transmettre. Même quand tu les entends, même quand tu es accompagné, quand tu es jeune dans ton processus mental d'entrepreneur et développement d'entrepreneuriat dans ta tête, même en écoutant les podcasts, en étant renseigné, tu pourrais aujourd'hui très facilement refaire ça parce que tu as besoin de le découvrir un peu toi-même, tu vois.
Ouais.
Tu as besoin de faire par toi-même déjà.
Si je peux faire une comparaison, moi aujourd'hui, on m'a mis en garde sur le recrutement, qu'est-ce qui se passe quand t'es 20 salariés et tout. Et c'est vrai que j'ai écouté les mecs et j'ai dit ouais, t'inquiète. Alors, à force de me prendre des murs, tu vois, je commence à avoir un petit, quand on me parle, je me dis, ah, je vais peut-être l'écouter. Mais j'ai vraiment le sentiment que tant que t'as pas un problème en tant qu'entrepreneur, tant que t'es pas face à ton problème, t'es pas prêt à écouter la solution.
Exactement.
Et moi aujourd'hui, quand je dis aux gens, quand vous donnez des conseils à des entrepreneurs, dites-leur toujours ça, ça s'applique à tel moment. Parce qu'en fait, quand on nous parle d'entreprise à la fac, quand on nous parle d'entreprise avec les entrepreneurs, tu vois, par exemple, mon problème numéro 1 aujourd'hui, c'est la gestion de ma trésorerie. Et du coup, si je vais donner un cours et qu'on me dit c'est quoi ton problème numéro 1, je vais dire la gestion de ma trésorerie.
Mais si on me dit à quel moment t'en as besoin,
j'en ai besoin quand on a dépensé, quand on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires, tu vois, quand on a dépassé le 1,5 million. Donc à partir du mois de juillet, on a dépassé le premier 1,5 million de chiffre d'affaires. Par rapport à mars, on s'est lancé. Ben voilà, là, j'ai commencé à avoir des problèmes de trésorerie qui sont réglés depuis. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pu anticiper. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Sauf que si aujourd'hui, moi, je voyais des cours sur la gestion de trésor.
Ouais.
Et je me disais, mais ça sert à rien ces cours sur la gestion de trésor. C'est quoi ces conseils? C'est inutile. Et en fait, c'est juste qu'il faut avoir le bon conseil au bon moment.
Et le bon conseil au bon moment, ce que j'allais dire.
Et en fait, quand on est entrepreneur, c'est important de s'entourer. Qu'on soit intrapreneur ou entrepreneur, c'est important de s'entourer de gens qui sont là pour donner des bons conseils au bon moment. Et moi, je vois des mecs qui sont entourés par des mecs qui ont monté des boîtes à 40 millions, qui ont monté leur boîte il y a 20 ans, à l'époque où le monde était différent, ouais, qui leur donnent des conseils. Et je leur dis, mais ces conseils-là, ils sont. Les conseils qu'ils vous donnent sur comment gérer une boîte aujourd'hui sont géniaux, mais revenez les voir quand vous ferez 40 millions de chiffre d'affaires. Allez pas leur demander des conseils maintenant, c'est pas bon, quoi.
Donc voilà, petite digression sur comment apprendre quand on est entrepreneur et quels conseils écouter à quel moment. C'était quoi ta deuxième expérience de boîte du coup? Enfin, troisième.
Votre troisième, oui, après, ouais, on s'emballe un peu, troisième projet. Mais... C'était ProcMeUp. J'ai honte.
ProcMeUp.
D'ailleurs, j'ai pas supprimé la page Facebook. Il y a des gens qui vont encore liker, ces fils de pute. Genre, ils vont liker les posts et tout. Je les vois, ils sont trop de ma gueule. Tu peux voir ma tête en 2016. Quand je pensais que si tu faisais pas un post Facebook par semaine, ta boîte pouvait pas décoller.
Tu penses qu'ils se foutent de ta gueule ou c'est de l'attraction?
Non, je pense que c'est de l'attraction grave. Pour une appli qui a jamais eu d'utilisateur, je pense que c'est clairement ça.
C'était quoi l'histoire?
En gros, alors c'est un peu fou cette histoire. En gros, c'est, je me suis dit je vais lancer une boîte. Là, je me suis dit je vais lancer une boîte. Genre, c'est bon, là je vais lancer une boîte. En fait, un problème en droit, c'est que t'as, ouais, c'est beaucoup trop long. Hein.
Non.
T'as 5 mois de vacances, littéralement. C'est-à-dire que tu bosses comme un putain d'enculé, genre tu te fais démolir et t'as 5 mois de vacances. Tu finis genre mi-avril, genre ou début mai vraiment si c'est la guerre. Donc t'as au minimum mai, juin, juillet, août, et moi je rattaquais le 30 septembre. Donc t'as 5 mois de vacances, t'as rien à faire. Et là tu dis, ok, en fait, quand t'es face à toi-même, tu vois, tu dis là, faut que je fasse un truc, faut que je monte une boîte, ça me prenait dans les tripes. Et en gros,
du monde alors.
Tour du monde, c'est pour les faibles. Moi je travaillais à McDo et j'étais capitaine de l'équipe de rugby.
Ça. Oh là là.
Ouais, pour payer mes études, tout ça. Non, mais moi je suis pas du tout un mec, tu sais, je suis pas parti à l'étranger pour apprendre des langues. Du coup, je parle un niveau d'anglais j'ai un niveau d'anglais.
T'as joué aux jeux vidéo et t'es devenu un monstre pendant 5 mois.
Voilà, c'est ça. Et bah, du coup, j'ai pas joué aussi aux jeux vidéo, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, je monte une boîte et là, je me suis pas dit, ok, j'ai un problème. Je me suis dit, il faut que je trouve un problème à régler.
Oh, mais c'est pas mal ça,
non,
comme.
Je déconne. Non, je me suis dit, je vais faire une appli mobile. Et à quoi elle pourrait servir mon appli mobile? Je me suis dit, allez, il faut que je trouve un truc et tout. Et je me suis dit, waouh, j'ai la flemme de faire du sport. Du coup, je vais faire une appli mobile pour se lancer des défis entre amis, tu vois. Genre, j'ai mis 2 semaines pour trouver l'idée. Tu vois, je cherchais absolument à résoudre un problème. Donc, comme tout entrepreneur qui se lance, j'ai résolu mon problème.
Bah, c'est pas mal pour commencer.
C'est de la merde. De mon point de vue, c'était vraiment horrible. Et en fait, et là, alors non, en vrai, bon, je vais t'expliquer un truc. À l'époque, je sais pas ce que c'était une appli mobile parce que j'avais pas d'appli sur mon téléphone, j'avais un BlackBerry. Donc en gros, j'ai découvert ce que c'était une appli mobile déjà. Donc j'ai découvert les langages et tout, comment ça marchait. Et là, mec, il faut savoir que du coup, j'avais pas de thunes. Je me suis mis à recruter une équipe. J'ai essayé de convaincre tout le monde autour de moi. On est monté jusqu'à 12 mecs sur le projet. Non payé.
Incroyable. Des gens qui travaillaient en plus sur leur week-end et tout.
Il y avait Arnaud dessus dedans d'ailleurs. Il m'avait dit, bon, mec, à un moment. Lui, il était plus expérimenté, donc il me voyait à l'époque, il bossait chez Bandale et tout, donc il avait l'expérience, donc il me voyait, il se disait, qu'est-ce qu'il fout, mais il venait et j'étais motivé et genre je poussais tout le monde et tout. J'avais 2 designers, j'avais 2 devs, ça n'avait aucun sens.
Il avoir des belles maquettes du coup.
Ouais, c'était incroyable. J'avais une personne qui était chargée de la com, c'était juste hors du commun et tous ces gens-là, trop cool en plus, mais quand j'y repense, ils étaient juste trop cool en fait. Et du coup, je les avais convaincus et moi, j'y croyais qu'on allait faire un truc, une boîte à 10 millions. J'y croyais vraiment, c'est-à-dire que j'étais pas du tout cynique. Genre, moi, je me disais, je vais y arriver, ça va être ouf. Et j'ai convaincu tout le monde autour de moi. Et je me souviens à l'époque, j'étais allé voir The Family. J'étais monté à Paris exprès et tout, mais genre, l'énorme tocard, j'ai relu l'email que je leur envoyais, mais j'ai tellement honte. Genre,
mais attends, ils t'ont reçu ou pas?
Ouais, ils m'ont reçu et tout, bien trop sûr, sympa. C'est Balthazar qui m'a reçu, franchement. Alice, là, elle m'a dit, allez, va te faire foutre, en gros. Mais quand je revois mon email, mais elle pouvait pas dire autrement. En fait, j'ai écrit un email genre de 50 lignes où j'ai expliqué que je voulais pas donner mon idée parce que j'avais peur qu'on la pique.
Ah, ça c'est encore. Ah, par contre, toi, tu l'avais gardé du coup.
Ouais, du coup, j'avais expliqué quand même le marché et tout, mais je voulais pas donner mon idée. Je vous dis, je vous en parle en physique, je veux pas vous en parler par email et tout. Et le mec m'avait dit, allez, viens. T'sais. Et en fait, il m'avait pas répondu. J'ai dit, on est 12 quand même. Et il m'avait dit, allez, vas-y, viens, je te rencontre. En vrai, je me souviens, il était là, il avait fermé son PC au bout de 30 minutes. Il voyait bien que j'avais aucun intérêt. Mais moi, j'étais là, j'avais tryhard, j'avais préparé mon truc. J'étais en stress devant The Family.
Si, il a essayé de t'apprendre un peu. Il t'a dit ton idée.
Ah oui, il m'a donné plein de conseils.
Il m'a dit,
il m'a dit un truc, genre, fais une boîte low-tech. Il m'a dit, fais pas une appli, fais un groupe Facebook, un truc. Tu vois. Et c'est un truc qui m'est resté dans la tête. Genre, et ce conseil, je me suis dit, putain, mais il a tellement raison. Mais en fait,
c'est la première fois que tu l'avais entendu, du coup.
Ouais, c'est la première fois. Et du coup, j'ai découvert aussi qu'il commençait à avoir du contenu sur l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que, donc, à un moment, on s'est consolidé, on était quatre, parce qu'il y a des gens qui sont partis du projet, machin. C'est impossible de tenir à 12 quand il se passe rien.
Comment tu faisais pour, les convaincre déjà?
Mais en fait, j'y croyais tellement. Tu vois, je disais aux gens, mais on va faire un truc de malade, en fait. Genre, ça va être.
Mais t'avais des maquettes,
Au début, j'avais rien. Et après, deux devs qui ont bossé sur le truc. L'appli a failli sortir. Ouais, elle était prête, elle était vraiment prête. On l'a jamais sortie parce qu'un moment on a explosé en vol, mais j'ai tout le code, j'ai tout. Enfin, d'accord. C'est Willy qui avait tout codé avec Fabrice, tout était prêt quoi, l'appli était prête et tout. Il y a un dev avait bossé 9 mois au chômage dessus et je lui complétais au black son salaire, tu vois.
Ah ouais, non,
genre
quand même.
Ouais, 200 euros par mois, donc moi ça m'a coûté quand même un certain prix. Je veux dire, c'est pas un truc que j'ai fait comme ça, mais hyper sympa, oui d'ailleurs. Enfin, et on faisait des réunions tous les jours, j'allais chez lui pendant 3 heures, on a fait tout le cahier des charges, après il développait et tout. On voyait Fabrice, il avait codé la landing page. J'avais Julie qui s'était occupée de la com. D'ailleurs, on s'est pris la tête parce que quand j'y repense, j'étais pas très mature, tu vois. Parce que j'avais pris la tête parce qu'elle avait pas fait de post Facebook depuis 7 jours. J'ai dit, mais comment tu veux qu'on buzz sur le net si tu fais pas de post Facebook? Enfin, tu vois.
T'avais quel âge à cette époque-là?
Je sais pas, j'avais 22 ans. J'étais déjà hyper con.
Les autres, ils avaient quel âge?
Ils avaient le même âge.
Ils avaient le même âge.
Attends, j'avais 23. Non, j'avais peut-être pas 22. J'avais 23 ou 24, je sais plus. Et eux, ils avaient pareil, entre 25. On est entre 25 et entre 22 et 30 ans, quoi.
Donc, t'as voulu gérer le truc comme une start-up qui avait déjà.
Et on se voyait toutes les semaines, gestion de projet. Mais j'y connaissais rien, la gestion de projet. J'y connaissais rien, tout ça. Et j'ai fait un cahier des charges pour la première fois de ma vie. J'ai fait un business plan pour la première fois de ma vie. J'ai même trouvé un investisseur potentiel qui m'a dit, je peux mettre 15 000 euros pour 15% de la boîte. Et je trouvais ça ouf. Je me disais, putain, c'est trop bien et tout. Ça nous valorise à 100 000 et tout. Mais je savais même pas comment ça marchait, une levée de fonds. Enfin. Il faut se dire que j'étais un juriste. Je savais rien sur rien. J'avais jamais entendu parler de business model. J'avais jamais business plan. Je voyais ce que c'était parce que j'avais vu quelque part, mais je savais pas ce que c'était un business model. Une appli, je savais même pas ce que c'était les ads. Je connaissais même pas le concept de Facebook ads. Enfin, en fait, je connaissais rien. Et en gros, j'ai tenu ce projet à la force de ma motivation. Sauf que les gens sont partis un par un.
Et comment tu trouvais les gens? Parce qu'il y a quand même une grande force à trouver les 12 personnes. Ouais,
tout le monde.
T'as dû rencontrer un grand nombre de personnes.
Ouais,
du coup, dans ce truc-là.
Tous les gens que je connaissais, genre, ouais, tu connais un dev, tu connais machin, et j'avais harcelé tout mon réseau, et tout le monde savait que je sortais une appli, j'avais écrit à tout le monde sur Messenger, genre à tous mes contacts sur Facebook et tout. J'avais bourriné comme un sale.
Ça, c'est bien, ça.
Ouais. La détermination, mais au service de rien du tout, tu vois. Genre, et le designer, qui était notre DA, qui a fait toutes les vues de l'app et tout, bah aujourd'hui, c'est notre directeur artistique chez Germinal. Robin.
C'est
mon pote de troisième.
Cool.
Et quand je l'ai rappelé, il m'a dit, vas-y, mec, la première fois, ça a pas marché, mais ça avait l'air cool, et là, bon, du coup, là, il est content, du coup. Enfin voilà, et du coup bah l'appli est morte d'elle-même parce que zéro besoin. Il y a un moment tu peux pas emmener les gens s'il y a pas de clients, il y a pas de traction, il y a aucun signe de marché.
Ah bah, mais attends, parce que tu l'as pas lancé donc.
Non mais même je veux dire tu vois sur les réseaux il se passait rien, on faisait des posts sur des groupes Facebook, il se passait rien. Enfin.
Ah oui, donc même quand t'as fait le marketing ça marchait pas. Donc
même
quoi, tu t'es
mes
rendu
potes,
compte que
c'était vraiment basique ce qu'on faisait, mais il se passait rien quoi. Et on se dit mais quand on va la lancer, il va se passer quoi? Et à cette époque-là j'ai commencé à regarder les vidéos de The Family qui à l'époque m'avait bien déniaisé et je m'étais dit mais en fait j'ai rien compris. Et c'est là où je me suis dit j'ai rien compris, tu vois. Et là, j'ai commencé à participer à des Startup Weekend aussi.
D'accord.
À l'époque de Proc Me Up.
Pour rencontrer d'autres gens.
Et du coup, j'ai vu les vidéos de The Family, j'ai vu Startup Weekend et je me suis dit, mais en fait, je suis complètement à la ramasse. Et là, j'ai vu des vrais entrepreneurs qui lançaient des trucs et qui me donnaient des conseils. Et là, j'ai rencontré à l'époque Mathieu Gentil de Coworking Grenoble qui gère un espace de coworking avec. Il y avait des entrepreneurs dedans et tout. En fait, je me suis connecté à l'écosystème et en fait, j'ai vu ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais j'étais pas du tout, quoi. Pas du tout. Et c'est tous ces gens-là qui ont permis de passer à l'étape d'après.
Ok, et du coup, l'étape d'après, qu'est-ce que c'est là? Déjà, la fin de ce truc-là, c'est du coup, vous vous séparez, vous ne lancez pas.
Willy qui pète un câble, qui me dit j'en ai marre de développer.
Encore un truc, ouais.
J'en peux plus. Je le comprends aussi, le pauvre. Enfin bref. Willy, Fabrice qui répondait plus trop. Robin qui me dit bon mec, par contre, faut signer un truc là. Du coup, le développement s'arrête, je ne pouvais pas le remplacer. Il fallait que je trouve un remplaçant, je cherche des mecs, je trouve personne. Et je me rendais compte, parce que je discutais avec plus en plus d'entrepreneurs, que ma démarche était complètement à l'envers et qu'en fait mon produit répondait à aucun besoin. Et je me suis dit, bah vas-y, next. J'avais plus d'énergie, j'en pouvais plus, j'y croyais
plus. Plus avoir d'énergie.
Et en fait, le truc, c'est que quand ta seule motivation, c'est parce que tu y crois, mais qu'en fait, t'as aucune data pour venir te dire, il y a un truc. Et à un moment, enfin, n'importe, tu craques. Tu vois, le
voile s'efface, quoi. Le voile tombe et le mensonge que tu t'es créé un peu toi-même, c'est ça, quoi.
Exactement. Et tu te dis, en fait, je peux plus.
T'es parti en vacances ?
Non, j'ai enchaîné sur la suite. Je prends jamais de vacances entre deux expériences. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'essaye un jour. Et là, du coup, j'ai enchaîné. J'ai des mecs de Chips qui, à l'époque, ont un petit site e-commerce. Achat participatif de produits Made in France. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont dit, ouais, vas-y, viens, mec, et tout. Ça va être cool. Ils étaient tous les deux. Et donc, j'ai candidaté chez eux. Du coup, je suis allé bosser chez eux. Et eux, ils avaient un peu de chiffre d'affaires. Ils avaient un site. Enfin, c'est ridicule, hein, mais ils avaient un site internet. Ils faisaient du chiffre d'affaires. Pas beaucoup, hein. Genre quelques centaines d'euros à l'époque, mais je trouvais ça incroyable. Ils avaient des fournisseurs et tout. Ils avaient des problèmes de logistique. Genre, c'était la vraie histoire.
La vraie vie,
en gros, là-bas, j'étais chargé de la com. Et en fait, on n'avait pas de budget parce qu'on avait dépensé une aide Innovisi à Grenoble. On avait fait des Facebook ads. Enfin, une agence avait fait des Facebook ads, mais genre avec un visuel, un texte. Ils avaient dépensé 1200 euros sur la même audience. Zéro vente.
Ça, c'est
non, mais quand j'y repense, c'était incroyable.
Tu t'es rendu compte que c'était nul quand tu
m'as rendu... Non, du coup, je me suis dit, Facebook ads, ça marchait pas. Facebook ads, ça marche pas pour le e-commerce et tout. Maintenant, je vois les millions qu'on dépense et les ROI qu'on a à l'époque. Ça aurait été incroyable. Si j'avais les compétences que j'avais à l'époque, on aurait fait des millions, littéralement. Mais bon. Et du coup, je cherchais toutes les solutions pour faire de l'acquisition. Donc là, j'étais en mode pas d'argent.
Qu'est-ce qu'ils vendaient exactement? Tu m'as dit achat participatif de...
Achat participatif de produits Made in France. En gros, c'était, tu faisais de l'achat groupé de produits Made in France et ça faisait des ristournes.
D'accord, c'est un groupon un peu...
Ouais, un groupon des produits Made in France, c'est foireux. Okay. Et en gros, là, tous les jours, je faisais des posts Facebook, dans des groupes Facebook. Tu vois, genre, je me rendais compte que les posts dans les groupes Facebook, ça marchait bien. Du coup, je m'étais créé des faux comptes. Et en fait, je likais mes posts, je mettais des commentaires pour créer...
L'engouement autour du
podcast. Et j'avais fait des fausses offres d'annonces d'emploi. Parce que j'ai vu que ça marchait trop bien. En fait, les groupes d'annonces d'emploi, il y avait vachement d'interactions. Du coup, je faisais des offres qui envoyaient du rêve et tout en mode. Et du coup, ça générait plein de trafic sur le site. J'avais un script pour ajouter à la main plein de gens sur LinkedIn. Du coup, j'extrayais leurs emails et j'envoyais des emails commerciaux. Donc, pas du tout vers GPT compatible.
Et ce script-là, tu l'avais fait toi-même ou t'avais
trouvé
un outil,
J'avais trouvé sur le net, tu vois. Genre, tu tapais script, machin. Et du coup, j'appuyais, ça ajoutait les gens et je faisais ça tout le temps. J'ajoutais les gens qui m'acceptaient, je prenais leurs emails, j'envoyais des newsletters, tu vois, j'avais genre 10 000 mails. Et en fait, juste, pareil, mais j'étais pas du tout en acquisition. Hein. Je faisais messages dans des groupes, faux comptes, l'ajout à la main, des mails sur LinkedIn, des posts sur LinkedIn.
C'est bien, c'est le
mini-salons.
C'est galéré pour comprendre.
Mais j'ai tellement galéré, mec. Genre.
Et les faux comptes, il y avait déjà la validation qu'il y a aujourd'hui.
T'es hardcore déjà. Et j'ai encore 6 comptes à 800 amis. Genre.
Ah oui, parce qu'il fallait monter en amis en plus.
Ouais, 50 premiers amis, t'as des problèmes d'ajout et tout. Enfin bref, je deviens expert en création de faux comptes si jamais vous avez besoin. Ça sert à rien comme skills, mais... Et voilà, du coup... Et en fait, là, c'est pareil. Le problème qu'on avait à cette époque-là, c'est qu'on savait qu'il fallait pivoter. Mais en fait, on écoutait tous les conseils. Là, en fait, je suis passé de... J'ai aucun conseil. Ah, j'écoute tous les putains de conseils qu'on me donne.
La girouette.
Et du coup, à chaque fois que j'ai rencontré un mec, on changeait de stratégie. Il n'y avait aucune consistance dans la stratégie, tu vois. Du coup...
T'étais comme cofondateur avec les deux autres,
ouais,
du coup
j'étais un peu conseiller comme cofondateur, mais j'avais pas vraiment de part, je devais rentrer dedans, mais en fait, ça a duré 5 mois.
Et t'allais au rendez-vous avec les mentors, enfin tous les...
C'est ça, j'étais avec eux et on était au Pépitosé, tu sais, c'est les incubateurs entrepreneurs étudiants, là.
Pépite, ouais.
Je connais Pépite. Et voilà, et en fait, juste, on était... En fait, ils s'occupaient des autres aspects et tout, mais juste, en fait, je regardais à la main, mais ça scalait pas, il y avait pas de traction, en fait, il y avait pas de product market fit, il y avait pas d'adéquation produit-marché. Produit, tout le monde s'en fichait, en fait. Et on essayait de vendre ça avec des méthodes à la main et tout. On forçait. Et on savait pas ce que c'était le problème. Est-ce que c'était l'acquisition? Est-ce que c'était le produit? Du coup, on changeait de produit, mais on changeait de produit sans avoir fait d'acquisition. Donc en fait, on savait pas si c'était de la bonne data. Et on itérait, on faisait des plans A, plan B, plan C, plan D. Et ça avançait pas, quoi. Tu vois, genre, tu forces. T'as pas de vente. Tu fais des trucs où ça buzz. Tu vois, t'as 1000 visites sur ton site, mais tu fais 2 ventes. T'envoies 10 000 mails, tu fais 2 ventes. Et en fait,
vous n'avez pas de méthode pour dire, pendant 3 mois, on teste ça.
Non, zéro méthode. Toutes les semaines, on testait des nouveaux trucs. On se disait, faut tester. Mais en fait, on n'avait pas de méthode, on n'avait pas de KPIs, on n'avait pas d'objectif, on testait juste. Et on n'avait aucun benchmark. Et à l'époque, il y avait des mecs qui faisaient des millions en e-commerce et nous, on faisait des posts dans des groupes Facebook et on pensait que c'était comme ça qu'on allait y arriver, tu vois. Voilà. Donc, ça a été beaucoup de problèmes techniques sur le site. On voulait faire des modifs sur le site en permanence. Mais comme on n'avait pas la main, ça prenait du temps. Enfin, voilà.
Pourquoi vous n'aviez pas la main? C'était pas un choix.
On n'avait plus une agence pour faire un
WordPress.
Site. On avait notre aide BPI et du coup, c'était une agence.
À cause de l'aide BPI, vous avez pris une agence ou...
Pas BPI, c'est l'équivalent de l'aide BPI en Ile-de-France. Mais en gros, c'est une mini aide BPI subvention, tu vois. Et ouais, du coup, on avait pris une agence qui fallait prendre un prestataire, tu vois. Du coup, on n'arrivait pas à gérer.
Et l'agence vous a pas filé un WordPress ou un truc que vous pouvez
faire? Si, ils n'ont pas WordPress, mais après, on voulait des modifs. ce qu'ils ont
fait. Le template et tout ça, là, c'était difficile.
Je pense que l'agence n'était pas de mauvaise foi aussi. T'imagines, on était un petit client, on les appelait tous les deux jours pour tous nos lancements, pour toutes nos campagnes. Les mecs, ils géraient des énormes sites et on se retrouvait avec un site qui s'est fait 8000 euros pour rendre service. Où ils se retrouvaient avec des mecs qui les appelaient.
Une grosse agence en plus.
Ouais. Non, mais c'était pas une grosse agence, mais c'était une agence, je pense qu'il était une dizaine. Et juste, on se retrouvait, ils avaient des beaucoup. On les appelait tous les jours. Enfin, t'imagines, t'as un client, si t'as 8000 balles, il t'appelle tous les jours. Enfin, et voilà, donc on n'avait pas d'agilité. On voulait tester, mais on n'avait pas de KPIs, on n'avait pas de benchmark. On n'était pas conseillé en acquisition client. Et on n'y arrivait pas, quoi.
On a souvent vu, nous, effectivement, que. Avoir trop d'argent au début et se dire je vais prendre une agence pour développer mon premier truc, c'est un facteur de la mort du projet.
Je l'ai vu tellement de fois.
Malade, quoi.
Là, j'ai vu une entrepreneuse, la pauvre, ce week-end. J'étais un startup week-end, j'étais coach et elle me dit j'ai mon projet et tout. Je vais faire un site. Je dis tu pourrais faire un chatbot, tu pourrais prototyper un truc. Elle me dit bah non, j'ai une aide, du coup j'ai payé un site 42 000 euros.
Wow.
Un gros site complexe, ça vaut 42 000 euros, tu vois. Mais je lui dis mais t'as pas besoin de ce site en fait. Et j'étais là en mode, mais putain meuf, t'avais 50 000 balles, t'en as cramé 42 000 dans le produit, te reste 8 000 pour faire l'acquisition sur un produit où en fait c'est l'acquisition qui est la clé. Et du coup en fait, au lieu de passer 3 000 euros dans une solution et 47 000 euros en acquise, c'est pareil quand t'as 47 000 euros pour faire de l'acquisition, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la merde parce que t'as trop gros budget. Alors quand t'as 400 euros, tu fais hyper gaffe.
Ouais, tu fais hyper gaffe et tu fais des tests et tu vérifies bien que tu redépenses bien ton argent.
Et j'avoue que c'était bien parce que sur l'acquise, on n'avait rien, du coup je me suis vraiment fait les dents là pour le coup, littéralement. Et voilà, après, au bout d'un moment, je suis parti parce que pas de product market fit, ça a itéré tout le temps. Et là, on m'a fait une autre offre en fait. Je venais de finir en master en droit. Et c'est le mec de Cowork, Grenoble, l'espace de coworking, qui m'a dit mec, rejoins-moi pour gérer l'espace de coworking.
Donc, comment tu penses que tu aurais pu, si tu devais le refaire cette expérience-là, est-ce que tu aurais pu finalement, avec cette équipe, avec les deux autres, trouver un axe et avoir une méthode pour trouver un autre produit. Il aurait fallu changer de produit, mais est-ce que vous auriez pu avoir cette discussion
aujourd'hui,
là
Non, avec la maturité que j'avais, j'aurais pas pu faire mieux. J'étais trop immature, j'avais pas assez d'infos. Aujourd'hui, je vois très bien ce truc en deux semaines, je passe à la suite, tu vois. Mais à l'époque, j'avais un manque d'infos. Enfin, franchement, je me suis tellement débattu, j'ai tellement donné tout ce que j'avais, tu vois. J'aurais des vidéos jusqu'à 4h du mat, j'aurais que des vidéos d'entrepreneurs tout le temps. J'allais voir, je demandais conseil à tout le monde, mais il manquait la maturité en fait. Et ça tu peux pas
l'inventer.
Tu peux pas aller plus vite.
Tu peux pas l'inventer, ouais.
Je pense que ma première boîte, là, ProcMeUp, ça aurait pu durer un mois et demi, tu vois, si j'avais été en contact avec les bonnes personnes. Et là, ça a duré 5 mois, j'aurais pas pu aller plus vite. 5 mois, j'ai tellement appris entre l'homme qui est rentré, qui a commencé, et l'homme qui est sorti. Et j'aurais pas. Voilà, je pense que. Après, il y a des gens exceptionnels qui réfléchissent hyper vite et tout, mais c'est pas mon cas, donc j'aurais pas eu de soucis. Mais je pense que j'aurais pas pu aller plus vite. J'avais plein d'infos, j'ai testé plein de trucs et ça m'a fait mon expérience humaine avec les cofondateurs, avec l'acquisition. D'ailleurs, je les remercie, hein, Marc-Alexandre, si j'avais écouté ce podcast, de m'avoir supporté pendant 5 mois. Et voilà.
T'écoutes sûrement grâce à notre immense audience.
Ouais, ça va être incroyable. Et voilà. Et après, du coup, on m'a proposé une autre opportunité.
Ok.
C'était de bosser dans un espace de coworking. Donc, pour l'espace de coworking, pas de. Et en fait, on était deux. Donc, en fait, il y avait moi et le mec. Il y avait aussi la fondatrice de Lovebox, Marie, à l'époque. Et en gros, j'étais là un peu pour le new business. Tu vois, il m'avait dit, je gère l'espace la moitié du temps et l'autre moitié du temps, je lance des business. Donc, c'était un peu intrapreneur, tu vois.
Okay.
En gros, j'avais des assets. Là, fallait que je lance des trucs. Et là, c'est là où j'ai commencé à me révéler, à faire des trucs assez cool, tu vois, pour le coup.
C'était quoi, du coup?
Suspense. En gros, premier truc que j'ai lancé, c'est, je me suis dit, ok. Tout le monde, à l'époque, on m'avait dit, ouais, mec, tu fais du growth hacking, tu vois. On m'avait dit, tu sais, quand je faisais mes posts et tout, la con, là. Et du coup, je m'étais mis à chercher growth hacking et j'ai dit, putain, mais en fait, il y a des formations en ligne et tout. Le growth hacking, ça a l'air génial et tout. Hein. Genre, c'est ouf. En plus, c'était un peu hacker mindset et tout. T'as une capuche et tout. Genre, c'était un peu stylé, tu vois. Parce qu'avant, j'étais chargé de communication.
Ah ouais,
Community manager, tu vois. J'étais vraiment pareil, hein, sur les termes, j'avais tout de suite été bon. Hein. Community manager, ouais. Vraiment, j'ai su me.
Le growth hacking, on s'est dit, mais ça, c'est une mode, un bon mot valise qui veut tout et rien dire, qui emporte tout sur son passage juste
clairement.
Parce que le mot est plus stylé, quoi.
Et en 2016, genre début 2016, mec, c'était une avalanche, le growth hacking. Maintenant, c'est plutôt dans les grands comptes, c'est un peu. Et ça marche bien dans les grands comptes, et c'est cool parce que ça leur permet de comprendre et il y a des vraies notions autour de ça. Et les startups, on est passé, on dit growth marketing, moi je suis growth lead, moi je suis growth strategist,
ouais,
revenu
à l'essentiel, quoi.
Voilà. Bref, mais à l'époque, c'était ouf. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une traction sur moi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai dit que j'étais growth hacker, tu vois, je me suis mis à devenir intéressant pour les gens, tu vois, parce que, en fait, il n'y avait pas de growth hacker à Grenoble. Et en fait, j'ai voulu lancer des formations. Et en gros, je suis allé voir Mathieu, il m'a dit, ouais, le growth hacking, mec, c'est dépassé, ça marchera jamais. Parce que lui, en fait, il était hyper connecté, tu vois. Donc lui,
Mathieu, c'était qui du coup?
Mathieu, c'est le fondateur de l'espace de coworking.
Ah, c'était le fondateur.
Et en gros, lui, il connaissait le mot depuis 2012.
Ah ouais, le hipster.
Et ouais, hyper, le mec hyper calé, trop toujours en avance, entrepreneuriat, hyper chaud et tout. Et je dis, ouais, mais j'aimerais bien essayer quand même et tout. Il me dit, ok, mais prépare pas tes cours, vends-le avant, tu vois.
Ça, c'est bien.
Et je dis, ok, vas-y, mec. Et du coup, j'ai fait une landing page. Il m'a codé, c'est lui qui m'a codé la landing page. Tu vois, j'ai fait le texte.
Vous n'utilisiez pas Strikingly à l'époque ou un truc comme
WordPress,
ça
WordPress, il a fait ça en 2000. Toujours WordPress. Il a fait ça en 1h30.
C'était pas codé, quoi. C'était
ouais, il a fait en 1h30 ou 2h un truc cool, tu vois. Il a fait, on a présenté le programme. On a envoyé un newsletter de Cowork. Et on a fait une soirée de présentation du truc. Et mec, il y a 60 personnes qui sont inscrites.
C'était quoi le prix pour être inscrit?
Inscrit, c'était gratos, mais c'était 400€ la formation après. Mais en gros, les mecs, ils avaient aucune info. On disait juste, on lance une formation Growth Hacking. Tu vois. Et là, je vois 60 inscrits. J'étais fou, mais j'étais
fou. T'avais pas annoncé le programme de là? T'avais annoncé un
peu
le teaser
juste...
de l'event ou ce que
ouais,
t'avais
juste dit, présentation de la formation. Donc,
ah, il y avait pas encore le programme de
non,
la formation.
Il y avait rien, il y avait nothing, mec. J'avais rien du tout. Et genre, c'était ouf et tout. Et j'avais vu, fake it, tu le make it. Je regardais les vidéos et il m'avait poussé, Mathieu. Donc vraiment, je t'y allais, je fake et tout. Et genre, enfin, je fake quand même à ce moment-là. Mais... Parce que j'avais des... Du coup, j'avais fait du growth parce que dans ma boîte d'avant, j'avais plein d'expérimentations, j'avais regardé plein de vidéos, j'étais hyper au courant. Mais bon, je pouvais le faire, mais j'avais pas de programme. Et là, la soirée, mec, déjà, il y avait 60 personnes, tout ça, j'avais mis ma petite chemise et tout. Et là, je fais mes slides où je présente mon programme et j'avais genre deux lignes par. Enfin, j'avais genre 8 lignes de programme, tu vois, j'avais rien d'autre. Donc, je présentais avec des slides, j'avais fait sur Bunker à l'époque mes slides. Et je présentais des intervenants dont certains n'étaient pas encore au courant. Je les connaissais, je savais qu'ils me diraient oui.
On a appliqué la même stratégie, on a mis des gens sur nos slides, on leur avait juste parlé une fois et on savait qu'ils étaient dans le scope et qu'ils pourraient intervenir, mais...
Voilà, ouais, c'est exactement ça.
Que beaucoup plus
et
tard.
Là, mec, à la fin, il se passe un truc de ouf. J'ai un éclair de génie et les gens, je leur dis, on était mardi, et un mec, il me dit, la formation, on le commence quand? Je dis, lundi prochain.
Ça, c'est bon, ça.
Et là, le mec, Mourad, et genre, Mathieu Mourad, en mode, mec, on va faire comment et tout. Et là, je dis, j'annonce le prix et tout. Et un mec, il me dit, à combien de places? J'avais aucune putain d'idée, tu sais, genre. Ils étaient 60 dans la salle, je me dis, allez, vas-y. J'ai dit 12. Et j'ai dit, qui est intéressé, levez la main. Mec, genre, le moment où mon cœur, il s'est arrêté de battre, tu vois. Je me suis dit aussi bien. Et je me suis dit, allez, il y en a 4 qui vont lever la main. Et là, mec, il y a 40 personnes qui ont levé la main.
C'est beau.
J'ai fait, what the fuck. Et j'ai dit, bah, du coup, il n'y a que 12 places, donc c'est le premier qui paye. Mec, il y a des mecs qui ont sorti leur chéquier. Il y a des gens, ils sont allés retirer et tout. Ils m'ont filé du cash, ils m'ont filé des chèques et tout. Après, j'ai dit non, mais vous inquiétez pas et tout. On va trouver une solution pour les autres. Du coup, on a fait 2 programmes le lendemain.
Bien sûr.
T'as tombé sur PayPal, bim, 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 bim. Du coup, on a eu 32 inscrits. Mec, j'ai fait 12 000€ de chiffre d'affaires en une soirée. Je suis rentré chez moi. C'était tellement le plus beau. Bon, là, ma copine a compris que dalle. C'était tellement le plus beau jour de ma vie. Genre, pour la première fois, j'avais vendu un truc. C'était, mais genre, un vrai truc, pas un truc à 60 balles où je faisais 10% de marge, tu vois. C'était vraiment genre ouf et genre je suis rentré chez moi, je crois que c'est une des soirées dans ma vie où genre c'était incroyable. Il y a le fondateur de Cowork qui m'envoie un message en mode mec bien joué et tout, et pour moi c'était un modèle et c'est toujours un modèle, Mathieu. Et genre juste c'était ouf quoi. Et genre je crois que c'est le premier jour dans ma vie d'entrepreneur, je me dis putain je suis drogué en fait.
Ouais, ils t'ont suivi, t'as réussi à transmettre ta passion, ton charisme, et après t'as été parfait sur le closing du deal. Et
ouais, la pression et tout, et en fait je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait exactement, ce qui a fait que ça a marché, parce qu'en fait c'est plein de choses, ouais, il y avait beaucoup de choses, c'était du hasard, je savais pas, tu vois.
Ouais.
Genre je m'étais pas rendu compte que mettre la pression ça marchait, et
ouais, tu savais pas,
deux ans plus tard je me suis rendu compte, mec, que quand j'arrêtais de mettre la pression à mes prospects, j'en ai plus, enfin moins. Bref, il y a plein de choses que et c'était incroyable, et donc le matin je me réveille, et le matin, et là, grosse gueule de bois, mec. J'ai 24 heures de formation à préparer. Mec, j'ai bossé genre nuit et jour. Genre. Je me mettais mais tellement mal. Je devais gérer l'espace de coworking et j'avais dit c'est satisfait ou remboursé.
Ah, vaut mieux qu'il soit satisfait.
Et j'ai eu aucun remboursement du coup. Mais genre, et je donnais les cours de 18h à 20h30 et de 20h30 à 22h30. Donc je suis dit c'est tous les soirs à 23h30. Je faisais lundi, mercredi. Je préparais tous mes cours la veille et tout. Parce que c'était en moyenne entre 8 et 10 heures pour préparer 2 heures de cours. Je refaisais le cours 2 fois d'affilée après ma journée. Je rentrais chez moi, j'étais au bout de ma vie. Mais j'avais vendu des trucs quoi, c'était ouf.
Et après, t'as fait quoi dans cet incubateur?
L'espace de coworking.
L'espace de coworking.
Non, mais parce que si Mathieu écoute ce podcast, sinon il va. Et après, après j'ai essayé d'autres formations. Et là, j'ai utilisé la technique de, en fonction du nombre d'inscrits, changer de salle. Du coup, la salle était toujours pleine. Tu sais, pour la présentation. Genre qu'on soit 14, 8 ou 60, changer de salle et j'enlevais des chaises. Et genre, à l'époque, j'ai commencé vraiment à être en mode comme ça. Et genre, à chaque fois que les gens venaient.
Comment mettre la pression de manière opérationnelle et claire.
C'est ça.
Pour
et les gens, ils n'avaient pas de chaises. J'ai vendu une formation de financement. Les gens étaient hyper contents aussi. Et après, j'ai essayé d'autres formations, ça ne marchait pas. Pareil, j'ai fait des petits déj, mais personne ne venait. Et après, j'ai refait formation Growth Hacking 1, 2, 3, 4, 5. On a fait 6 saisons au total. Donc, hyper cool. Et là, on m'a contacté pour écrire un bouquin sur Growth Hacking, du coup, que j'ai écrit, qui s'est hyper bien vendu. Là, du coup, on va le rééditer. On va en écrire un autre, c'est cool.
Version 2.
Version 2.
Comment il s'appelle, le livre?
Le growth hacking. 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects, quoi. En gros, on s'est inspiré des pubs sur les sites pornographiques et on s'est dit doubler la taille de son pénis, ça marche.
C'est ça l'inspiration.
Non, pas du tout. En fait, on a fait ce truc là et genre on a édité, on s'est dit mais en fait ça fait vraiment pub sur les sites pornographiques. On s'est dit, putain, on est vraiment des. Bref, du coup là on va changer le titre pour la headline et tout. On est d'accord avec. Et c'est Frédéric du coup qui m'a beaucoup aidé sur l'écriture, hein, pour le coup. C'est lui qui a vraiment écrit une grosse partie. Il avait vraiment l'habitude, mais mon co-auteur Frédéric Canevet.
Donc là le nouveau titre ça va être cette simple astuce pour doubler la taille de vos prospects.
Exactement. Et en gros, comment tu passes d'un prospect qui fait 1m80 à un prospect qui fait 3m60? On est des putains de génies. Non et on va changer la couverture et tout, bref. Et du coup voilà, et après genre c'est un accélérateur de start-up. Je me suis rendu compte que, et j'avais pas de business, et en gros mon business model c'était on prenait un pourcentage des levées de fonds et des subs que les gens avaient sur un an, mais c'était gratuit. Et là pareil, je me dis on va lancer un accélérateur de start-up, je fais une landing page, mec, j'envoie une newsletter, je fais de la prospection sur LinkedIn, et genre j'ai eu 20 candidatures. J'étais refait, en vrai
c'est pas mal,
20 à Grenoble, mec, j'étais refait. Et on a pris le premier batch, 3 mecs, je fais des entretiens et tout, et on les a accélérés. Et là j'ai commencé à développer ma méthode. Et là, pareil, juste j'ai trouvé les experts, j'ai organisé les trucs, j'ai itéré sur la méthode, j'ai trouvé des bureaux, j'ai cherché un business model, j'ai jamais trouvé de business model. Mais voilà, j'ai vraiment lancé ce truc avec les dents, quoi. Et pareil, la fake, j'ai lancé. Par contre, tu fake, les mecs qui s'inscrivent et après tu te donnes comme un malade
pour exécuter.
Pour trouver des bureaux, pour les aider à trouver des subventions, les aider à lever des fonds, les accompagner sur l'acquisition.
Parce que tu connaissais pas grand chose en fait à cette partie-là.
Alors, moi sur la partie acquisition, je commençais à être bon quand même, parce que si formation, j'avais vu plein de mecs et tout. Sur la partie levée de fonds et tout, bah, j'ai appelé tous les mecs que je connaissais, j'ai appelé des leveurs de fonds pour qu'ils fassent des formations, j'ai appelé des mecs qui faisaient des subventions BPI et je les faisais intervenir, je leur demandais de m'aider pour les aider sur les dossiers. En gros, j'ai appelé tout le monde.
Une fois que t'as les startups et que t'as le nom d'accélérateur après.
C'est ça s'appelait Let's Grow et tout, et bref, et voilà. Et un des mecs, notre directeur des opérations, là, Jordan, qui bosse, bah en fait, il a été venu chez nous et j'avais investi dans sa boîte. Et sa boîte a planté pour un problème. En fait, il y a un changement de réglementation sur les temps périscolaires. Bref, c'est dommage. Il avait 700 000 euros de commandes quand son truc s'est pété la gueule. La première année, donc il était vraiment hyper chaud. Ce mec était tellement vénère. Il a arrêté sa boîte. Je me suis dit, putain, faut que je récupère. Je l'ai appelé. Ça fait un an et demi qu'il est chez Germinal. Donc vraiment incroyable. Ça m'a servi à ça au moins. Enfin voilà. Et après j'ai quitté mon taf. Parce que je voulais monter ma boîte. Et en fait, je trouvais ça trop cool, mais j'avais besoin de monter mon truc. Et c'est là où j'ai monté Germinal, quoi. Je sais pas si on peut parler du début.
Ouais, grave, bien sûr. C'est quoi le début de Germinal, du coup?
Bah, en gros, je suis parti donc de chez Cowork. Et là, j'ai deux boîtes qui m'appellent. Une petite, c'est Lovebox, pour donner un coup de main sur leur stratégie d'acquisition. Donc, je commence. Et en fait, tout s'est déclenché parce qu'en fait... comme dans l'accélérateur, bon, je vais pas détailler, dans l'accélérateur, en gros, j'accompagnais les mecs à la semaine. En fait, chaque semaine, je leur donnais des objectifs pour la semaine suivante.
Ah, okay.
Et donc, je faisais du coaching. Et du coup, des boîtes m'ont dit, bah, ça m'intéresse que tu nous fasses du coaching, mais on te paye, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais donner une conférence en juin, le 6 juin ou le 8 juin à Paris. J'étais devant le groupe Verspiren. Je suis venu donner une conf. Et j'ai une nana qui est venue me voir à la fin, Sylvie, que je remercie d'ailleurs, qui est venue me voir et qui m'a dit, ouais, parce que j'ai pas tout compris ce que tu disais, mais franchement, ça m'intéresse. Faut que tu vois le directeur général de ma boîte, qui est le cabinet branché, qui est une boîte qui fait 12 millions de chiffre d'affaires selon société.com, donc une belle boîte.
La mémoire des chiffres.
Ouais. Je suis un peu bizarre, je sais. Et j'espère que je me trompe pas dans les chiffres, par contre. Je passais pour un gros débile. Et donc, je le rencontre et tout. Et là, en fait, c'était ma première vraie vente, parce qu'en fait, là, je lui dis, c'est la première fois qu'on a vendu l'offre Germinal. Elle m'a dit, ouais, je lui vends l'accompagnement et tout. Il me dit, oh, c'est génial, on a besoin de ça, mais qui exécute? Parce que je me dis, mais je peux pas. Et je lui dis, bah t'inquiète et tout, je vais trouver quelqu'un.
Parce que tu faisais que du coaching à cette époque.
Ouais, je faisais que du coaching, ouais, je faisais toujours que du coaching.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas une personne. Ouais. Et du coup, je faisais du coaching à l'époque. Et là, j'étais rentré sur un Slack Gros France. Enfin, Slack Gros Fucking France à l'époque. Dans lequel j'étais rentré parce qu'un mec m'avait invité. Et j'avais failli me faire virer du Slack. Parce qu'en fait, j'avais un mec qui voulait organiser un event Growth à Lyon. Et en fait, je lui avais marché sur la gueule pour organiser avant lui. Faut que ce soit moi qui réalise le premier event Growth à Lyon. Non, il faut pas se mettre entre moi et mon objectif.
Qui a gagné du coup?
Moi. Et du coup, et les mecs du Slack m'ont dit ça se fait carrément pas et tout. Et c'est vrai que la façon dont je l'avais fait, bon, mea culpa, Maxima. Et donc j'appelle le mec qui s'appelait Benjamin, il m'appelle. Benjamin Gabé, je sais pas si tu connais. Mon cofondateur.
J'ai rencontré.
Et du coup, il m'appelle et tout. Il me fait, ouais, mec, et tout, t'as abusé et tout. Je dis, ouais, machin. Puis à un moment, je monte sur Paris. Et du coup, à cette soirée, je monte sur Paris donc, pour faire ma conférence et je dis, mais il faut que je voie quelqu'un. Je vais pas juste monter. Et du coup, je dis à Benjamin, je monte sur Paris, est-ce qu'on peut se voir pour boire un coup? Et à cette soirée, il y avait Benjamin Gabé, Hugo Perrin et mon pote Arnaud Bugier-Duval, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et mec, ils ont parlé de growth et je te jure, J'ai rien compris.
Alors
j'ai pas compris un seul putain de mot de ce qu'ils disaient alors que j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Ils étaient trop techniques, je comprenais que dalle. Et je me disais, mais en fait, je suis un putain de tocard, en fait. Genre, je suis le meilleur à Grenoble, enfin le meilleur, entre guillemets. Je suis un des bons à Grenoble sur le growth, mais en fait, je suis un énorme tocard. Les mecs, ils parlent de trucs, je comprends même pas. Je me dis, mais en fait, je suis un putain de paysan.
Après, ça peut arriver toujours avec des techos qui parlent de trucs quand tu connais
ouais,
pas.
Ouais, hein. Carrément, non, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'en savais pas mal, finalement. Ouais. Quand on a rediscuté après.
Et qu'ils ont un peu été plus pédagogues.
Ouais, ouais, en vrai ils ont un peu essayé de m'impressionner, ces bâtards.
Ah, là, classique.
Et ils utilisent plein de termes techniques et tout, alors qu'en fait, je savais très bien de quoi ils parlaient, mais bref. Mais ils étaient quand même vraiment meilleurs que moi, techniquement. Et donc, je fais cette conf, je rentre chez moi, et là, je fais ce déjeuner, là. Avec Sylvie Charlet et son directeur Philippe Osimo. Et là, je leur dis, ouais, je fais de l'accompagnement et tout. Il dit, t'as une boîte? Je dis, ouais, j'ai une boîte. Bon, à l'époque, j'avais pas vraiment de boîte. J'étais en cours d'immatriculation, il me restait 2 mois. Il dit, t'as des bureaux? Je dis, oui, à République. Donc, en fait, j'étais chez Benjamin, en fait.
Très bien.
Enfin, c'était Benjamin où je me suis dit, je vais dire qu'on a des bureaux à République. C'était chez Benjamin, mais on n'était pas encore. On n'avait rien fait, quoi. Et là. Après, elle me demande des références, donc là, je donne des références clients que j'avais, hein, pour le coup. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je donne un plan d'action parce que j'avais une bonne idée de ce qu'on pouvait faire, etc. Donc, c'était. Mais voilà, bon, on va dire que sur la société, sur les bureaux, je me suis un peu emballé. Et là, elle me dit, OK, il faut l'exécution. Je dis, putain, mais je peux pas exécuter, moi. Je sais pas. C'était trop technique. C'était vraiment des trucs chauds, en plus. Genre, on a fait des trucs sur des bases emails et tout, qu'on a reconstitué, du scrapping sur trucs du gouvernement et tout. On s'est vraiment emballé. Et là, elle me dit, j'appelle Benjamin, je dis, mec, et tout, il me faut un free et tout. Il me dit, ouais.
T'avais vendu la mission, du coup?
Ouais, ouais, elle était déjà vendue, la mission.
T'avais fait la propale, t'avais vendu.
Ouais, t'avais vendu,
fait
ouais.
Chiffre, bah ça,
j'ai fait un devis sur Excel, j'ai demandé à mon père si je pouvais mettre son siret. C'était de mon père, donc voilà, courtier en assurance, aucun problème. Encore merci, Sylvie. Je pense qu'elle était pas dupe, en vrai. Elle était vraiment bienveillante. Mais elle voyait qu'il y avait un truc cool et on était pas cher, genre on était à 450€ la journée.
Ouais, et puis voir un mec hyper brillant qui s'y connaît sur un sujet,
voilà.
Où il y a plus personne.
Elle écrit un bouquin et tout, elle se dit il y a personne.
Il y a de la réassurance qui vient d'un autre côté,
voilà,
ça vient
ça.
Pas de la société, quoi.
C'est ça, exactement. Et là, Benjamin me dit, écoute, je connais un mec, Paco Viltard, genre hyper bon et tout, vas-y, je te fais une intro. C'est d'une troisième cofondateur. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble et au début, mec, je te jure, à l'époque, on s'appelait avant les réunions et je dis, est-ce que t'as bien pensé à faire ça? Et il me disait, ah ouais, moi j'ai oublié et tout. Et en fait, on s'appelait genre 4 fois par semaine pour voir où on en était dans les tâches. On mettait rien à l'écrit, on prenait pas de notes, on faisait pas de compte rendu. On arrivait juste à la réunion en disant, voilà ce qu'on a fait, on leur présentait, on lançait. Il y avait pas de reporting, il y avait pas de slide.
T'avais tout oublié de ce que t'avais appris ta maman sur la comptabilité.
Ah, mais tout. Et...
C'était.
Non, mais comptabilité n'est pas égal à gestion de projet, ça n'a rien à voir. Ouais, mais un niveau de gestion de projet est égal à 0, mec, 0. Et en fait, on est parti de zéro et à un moment, on s'est mis à prendre des notes. Puis après, on s'est mis à faire des comptes rendus. Puis après, on s'est mis à faire des reportings dans des Excel. Au début, on faisait même pas des reportings dans des Excel, mec. C'était incroyable. On faisait des reportings genre par mail, tu vois. On mettait genre 8 lignes, tu vois.
Mais c'était alors... utile. Ton client, il t'a fait des remarques là-dessus?
Ah non, mais eux, kiffaient. Parce qu'ils en avaient marre de voir des agences qui leur faisaient des reportings de ouf et qui bossaient pas. Alors que nous, on faisait plein de trucs, hyper innovants. On testait des trucs de malade et tout. Hyper expérimental. Et donc, ça s'est hyper bien passé, etc. C'était hyper cool. On a vachement progressé. Et là, mais on voulait pas lancer Germinal. C'était juste une mission freelance, quoi. C'était une mission. Et d'ailleurs, chez Germinal, il y a 2 postes sur les factures. Il y a le poste accompagnement et le poste growth. On a 2 lignes différentes.
Ok.
C'est pas la même. Et en fait, c'est parce qu'au début, la moitié, c'était la poste accompagnement, c'était pour moi.
Toi, le coaching.
Et le poste coaching, c'était pour moi. Et le poste growth, c'était pour Paco. Et en fait, c'est toujours resté sur nos factures. Et les gens me demandent pourquoi vous avez 2 lignes. En fait, c'est juste qu'il y a une ligne pour moi, une ligne pour Paco. Et c'est toujours resté, c'est assez drôle. Enfin, je sais pas si c'est pas hyper marrant.
Mais en fait, c'est classique dans les boîtes un peu de service, quoi. Il y a la partie conseil et la partie prod, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est ça la différence, là.
C'est ça. Mais c'est du coaching, c'était un peu. Enfin, c'est du coaching chaque semaine, donc c'était un peu workshop. À l'époque, je trouvais ça ouf, hein, en fait. Bon. Et en fait, le deuxième client, et c'est là où on a lancé vraiment. On n'a pas lancé Germinal, on s'est dit qu'il fallait qu'on lance Germinal.
Ah, mais du coup, la première mission est un succès. T'as un feat avec tout le monde.
Ouais, j'ai un feat avec Paco.
Et Benjamin, du coup.
Benjamin et Paco voulaient monter une boîte avec un troisième mec. En fait, et moi j'avais dit, ouais, les gars, est-ce que je peux pas me joindre à vous et tout? Et Paco il voulait pas. Parce qu'il me disait, mec, t'es qui et tout, je te connais pas, machin et tout. Genre, t'es Paco, il est un peu, pour ceux qui le connaissent. Donc ils avaient leur projet de boîte, et moi j'avais mon truc, et je leur dis, ouais, je peux vous rejoindre et tout, ça a l'air cool, tu vois. Genre,
ouais, tu sentais le fil.
Il me dit, ouais, pas trop et tout. Et le troisième mec, lui, était chaud pour que je les rejoigne, donc on soit 4. Et lui, finalement, le troisième mec, il est parti, il a pas trop cru en le projet, il aimait pas trop l'ambiance, il aimait pas trop la méthode, etc. Bon, fine. Et du coup, il est parti, du coup, on s'est retrouvé à 3, mais en mode, on monte une boîte, on monte pas une boîte. C'est genre, ouais. Puis on se regarde, quoi, et puis je me dis, ouais, faut qu'on ait un truc quand même. Et là, je monte à Paris, juste pour revoir un pote, pour avoir un objet du vol toujours. Et là, ma copine me dit, tu vas pas juste monter à Paris pour voir un pote, et essayer de me faire croire que tu bosses quand même. Et du coup, il y avait un mec, après la conférence, le 6 juin, là, ou 8 juin, je sais plus, chez Verspiren, qui m'avait dit, est-ce que vous pouvez viser les alcooliques sur Facebook? Et je lui ai dit, bah non, je sais pas et tout. Il m'a dit, bah regarde et dis-moi. Je lui ai dit, c'est quoi le nom de ta boîte? Il m'a dit, SOS Malus, il était parti. Juste comme ça. Et là, dans mon Trello, j'avais écrit SOS Malus. Et du coup, je me dis, bon, allez, je vais essayer d'écrire à ce mec, tu vois. Genre. C'est pour une bonne confiance.
T'es dans le train, t'as vraiment rien à faire.
Je cherche son site.
T'as ta connexion 3G.
Je trouve son site, je cherche son nom, profil LinkedIn, je devine son email, je lui envoie un email et je lui dis, hey, mec, est-ce qu'on pourrait se rencontrer et tout? Et là, il me fait, ouais, vas-y, carrément, on se boit un café. On s'assoit, on boit un café de 30 minutes, je lui explique ce qu'on fait. Il finit, il me dit, donc c'était un contrat quand même à 8000 euros par mois. Et à la fin du café, il me dit, allez, ça me botte, vas-y, il me serre la main, il dit, on commence la semaine prochaine.
Oh, c'est bien ça.
Et là, j'appelle
l'early
Benjamin,
adopter, le client chaud.
J'appelle Benjamin et je lui dis, mec, on a un deuxième contrat et tout, faut qu'on fasse un truc et tout. Et là, du coup, Benjamin dit, ok, allez, on chauffe, on monte une boîte. Et là, du coup, on était Paco, Benjamin et moi. Et on s'est dit, on se donne 3 mois parce qu'on se connaissait pas d'avant, mec. Je les avais jamais vus avant juin. Paco, je l'avais vu une fois en physique.
T'as
et
fait
Benjamin.
Période d'essai, du coup.
Ouais, c'était vraiment période d'essai. On s'est dit, on se donne 3 mois pour faire des trucs. Et donc, on a eu ces deux clients là.
Vous l'aviez un peu écrit du coup? Comment vous avez géré ça?
Rien écrit du tout.
Vous avez rien écrit du tout.
C'est juste parlé comme ça.
Vous avez juste...
Maintenant, on est culture de l'écrit. On avait zéro culture de l'écrit. C'est un truc de ouf. Et on se dit, ouais. Et là, Benjamin me propose des noms et tout. Et j'en avais des noms de merde. On hésitait entre s'appeler The Galleon ou Paladin.
Ah, la fameuse réunion de brainstorm de.
Et on a décidé que le nom, ça prendrait pas plus d'une heure. Parce que dans nos boîtes d'avant, on n'y avait pas si
longtemps.
Ouais,
c'est
ça. Et là, on se dit, allez, vas-y, mec, vas-y. Et il y avait un nom germinal. Et avec Benjamin, on se dit, putain, c'est trop cool et tout. On tombe d'accord, tu vois, parce qu'on n'était pas d'accord. On appelle Paco, on lui dit, mec, on a vraiment une idée de merde. On va appeler notre boîte Germinal. Il dit, ouais, vas-y, go.
Très bien, tous les blasés
voilà, on a déposé le nom, genre 2 ans après. On a déposé là en août. 2 ans après avoir trouvé le nom. Et au début, du coup, on lance, donc on se dit, on se donne 3 mois. Et en fait, on a eu d'autres clients. L'autre client, c'est Alcatel Lucent Enterprise. Emric, il m'appelle pour me recruter sur LinkedIn. Et je lui dis, ouais, vas-y, mec, en fait, moi, je suis head of growth part-time et tout. Il voulait me recruter en growth. Et du coup, on a fait la review. C'est pareil, à la fin de la review, on monte le devis, on signe. Et en fait, on a eu ces 3 clients, cabinet branché, SOS Malus, Alcatel Lucent Enterprise. On donnait vraiment tout ce qu'on avait. Hein. Et en fait, c'est ces 3 clients qui nous ont fait notre base vraiment de chiffre d'affaires sur les 6-7 premiers mois. Et en fait, on a commencé à bosser avec eux. Et en fait, en décembre, donc à partir de novembre avec Alcatel, il me semble, fin octobre ou novembre. Et on avait ces 3 clients sur le long terme. Et on a eu d'autres petits clients, mais c'est anecdotique. Et
ça, c'est vous signez du recurring tout le temps, donc en fait,
non, plus maintenant. Maintenant, c'est une émission commando. Maintenant. Et avant, on faisait du recurring.
Ok.
Et on a changé de modèle parce qu'on avait un meilleur product market fit, etc. Et on pourrait expliquer, mais je sais pas si c'est plus intéressant le changement de produit. Mais... Et en fait, en janvier, on s'est dit, allez, vas-y, go les gars, on immatricule. Et on a lancé germinal.io. Au début, c'était juste germinal. Il y avait même pas de tu pouvais pas te demander de contact sur un site, mec. C'est juste le logo Germinal qui tournait. Et on s'est immatriculé. On est rentré dans les bureaux en janvier 2018. C'était cabinet branché qui nous a filé le expert comptable. Il a fait un arrêt cardiaque. Du coup, ils avaient des bureaux libres. Et du coup, on s'est retrouvé dans les bureaux au fond du couloir de cabinet branché. Trop sympa. Et on s'est retrouvé tous les trois avec 2 ou 3 freelances. Et on s'est retrouvé tous les trois avec 2 ou 3 freelances tranquilles. Au début, parce qu'on avait, ma société qui était immatriculée à vif, unipersonnelle et tout. Donc, on ne pouvait pas prendre les gens en salarié. Et on a bossé ensemble et après en mars on est matriculé, c'était parti quoi. Et là on a pris les gens en CDI et on a commencé.
Comment vous êtes mis d'accord du coup sur la méthode entre vous là, sur qu'est-ce qu'il fallait vendre aux clients?
Alors au début,
c'est
moi qui ai tout vendu moi. Au début, franchement la première année, Benjamin et Paco, ils étaient incapables de vendre. Incapables.
Pourquoi?
Ils n'arrivaient pas à expliquer ce qu'on faisait. Il y avait que moi. Et en fait au début, moi pour expliquer ce qu'on faisait, ça me prenait genre 10 minutes. Et en fait ce qu'ils vendaient, c'était que j'étais hyper chaud, j'avais plein d'exemples. Et en fait, les gens, ils achetaient moi, tu vois, qui parle trop fort et c'était un peu chiant. Mais... Et les gens, ils achetaient moi, quoi. Et ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Et on avait plein de clients qui, en milieu de mission, étaient genre perdus, genre, mais on en est où? Je comprends pas. C'était incroyable, genre, on avait des clients qui comprenaient pas ce qu'on faisait.
C'était quoi concrètement? Tu faisais un test sur une stratégie d'acquisition
on fait des sprints. En fait, chaque semaine, on lance 3 jours, on fait 3 jours d'expérimentation. Donc, on fait des pubs Facebook, de l'email, des landing pages, donc des mini-sites de vente bien segmentés, des automatisations LinkedIn, la collecte de base de enfin la création de base de données, etc. Et en fait, on fait 3 jours de test et on les montre aux clients, on les lance, on fait 3 jours de test la semaine suivante, on montre aux clients, on lance. Et là, à partir de la semaine 3, on analyse ce qui a été produit semaine 1, lancé semaine 2, et en fonction des résultats, on formule des hypothèses et on lance de la production. Semaine d'après, on recommence, on regarde ce qui a été produit semaine 2, lancer semaine 3, on fait des hypothèses, on lance, on regarde ce qui est tes produits semaine 3, on va, enfin voilà.
Et donc ça, dès le début, c'était déjà ça.
Alors au début, c'était, alors en vrai, c'était, on savait qu'on travaillait par semaine, on a toujours travaillé par semaine, on a toujours appelé ça des itérations. On a toujours fait 3 jours, des fois on a essayé 4. La méthode a assez peu changé. Après, on s'est vachement amélioré sur les tests. Au début, on était beaucoup moins cher aussi. Donc, je pense que les clients qui nous payaient au début, c'était aussi une très bonne affaire. Mais...
Ouais, tous les entrepreneurs au début, ils savent pas se pricer. Enfin, comment tu fixais ton prix du coup?
Au début, on se disait qu'on était à 500. Au début, en freelance, ils me disaient que c'était à 400 euros jour, 450 euros jour. Pas
ouais, c'est ça, c'est les équivalents freelance.
Donc, on avait vendu 500 balles et on était 450 ou 500, on était hyper contents. Alcatel, on s'était dit ok, on leur avait vendu 600. On s'est dit on augmente notre prix, mais on faisait tellement plus, genre on leur vendait 3 jours, on faisait 5 ou 6
ouais. Ouais, tu veux absolument que le client soit hyper satisfait, hyper content,
Tous nos clients au début, on faisait, franchement, on vendait à 5 ou 600 euros la journée, on faisait x2 quoi, genre c'était on y passait tellement de temps et on donnait toute l'énergie qu'on avait, enfin c'était, on a vu, c'était hyper, pour eux c'était hyper intéressant d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bossé aussi longtemps, parce que on donnait tout ce qu'on avait quoi. Et voilà, et du coup, on a toujours fait cette méthodologie en sprint. On a toujours fait une réunion par semaine et après, on a cadré la méthode, la façon dont on gère les réunions, l'onboarding. On s'est amélioré le produit aussi. On développe vraiment un produit. On est parti d'une méthodologie pour développer un produit pour accélérer sur cette méthodologie. Donc, on a vraiment progressé là-dessus et ça a énormément mûri ce qu'on fait, forcément. Mais c'est toujours la même méthode. Et en fait, en gros, nous, quand on n'est pas d'accord, on dit OK, on teste.
Très bien.
Genre, on me dit ouais, je pense qu'il faudrait faire ça. OK, on teste. Genre à un moment on s'est dit ouais, faudrait peut-être rallonger les itérations, au lieu de se voir toutes les semaines avec le client, toutes les deux semaines, on a testé. Et à un moment on s'est dit on pourrait raccourcir, on a testé. On s'est dit on teste.
Vous appliquez Germinal à Germinal.
Ah mais je pense qu'on est des jusqu'au boutiste, on est incroyablement, enfin c'est culturel, moi je teste tout. Même mes posts LinkedIn je les teste, genre je fais des types de posts, je regarde le ROI, je change de type de post, même notre com.
C'est quand que tu as découvert cette fibre du test du coup? Parce qu'on l'a pas forcément vu au travers
petit
de cette expérience.
Petit à petit, en fait, ça a commencé à partir de. Après ProcMeUp. Avec Chip, je me suis mis à tout tester.
Ah ouais, c'était cette
phase-là, d'accord.
Tu sais,
je faisais plein de tests, mais je faisais pas du. La première fois que j'ai fake it, c'était mon offre d'emploi qui n'existait pas. Et à partir de là, en fait.
Tout s'est aligné dans.
Avant, j'étais hyper contemplatif et je suis devenu un mec qui teste tout. Tout. Genre, c'est devenu. C'est maladif chez moi, quoi. Genre tout ce que je fais, je me dis ok, faut que je teste la façon d'organiser ma boîte mail, la façon d'organiser mon temps, la façon de mes loisirs, la façon les sports que je fais, même mes études, enfin je teste tout quoi. Mes cours, je les teste, j'échange, enfin voilà. T'as compris l'idée quoi. C'est jusqu'au boutiste. D'ailleurs c'est un peu, des fois c'est un peu.
Et du coup là à cette période-là, du coup vous avez vos premiers clients qui sont venus grâce à tes premiers contacts et tes premières conférences.
Ma conférence et le client qui me démarche sur LinkedIn. Ouais.
Et après, du coup, les autres, donc ceux, il a fallu se battre un peu plus. Comment vous avez...
On s'est pas trop battu. En vrai, on avait vraiment une grosse adéquation produit-marché et c'est là où j'ai vu qu'on se battait pas trop. À un moment, on a envoyé des emails de prospection. Tout simplement, c'est ce qu'on faisait pour nos clients. Ouais. Et on a décroché Cityscoot et Apital. Donc à l'époque, Cityscoot avait 40 millions, Apital là, levait 22 millions. Et Cityscoot, donc c'est Alexis... C'était nos premiers clients startup. En fait, au début, on avait que des PME, un peu grands groupes, et après, on a commencé à glisser sur les startups. Et en fait, genre, c'était la galère parce qu'en fait, en gros, on envoie un mail à Alexis et tout. Il me dit, ouais, carrément, cool et tout, ça m'intéresse ce que vous faites. Et là, il m'appelle, il me dit, mec, ton site, il est mort en fait. Genre, il y a un lien mort sur ton site. Comment est-ce que je peux bosser avec une boîte qui a un lien mort sur son site?
Un seul lien?
Un seul lien, ouais. Non, mais il a raison, il me connaît ni Dev ni d'Adam. Tu te méfies de ouf.
Et aussi, il y a un mec avec qui on voulait taffer. Première chose qu'il nous a dit, c'est les mecs, mais je suis allé voir votre site, mais il y a plein de liens morts partout. Et tout. Ouais, enfin, on s'en fout, il marche.
Voilà, et moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, vas-y, juge-moi sur le travail de mes clients. Et là, je lui ai envoyé tous les sites de mes clients. Et en fait, ce que l'histoire ne sait pas, c'est qu'en fait, ça arrive en spam mais qu'il ne l'a jamais reçu.
Oh, non.
Et que j'étais tellement vénère, il m'a dit, allez, je les rencontre. On les a vus une fois, deux fois, trois fois. On a vraiment sorti le grand jeu. Ils nous ont dit, allez, on bosse ensemble. On est vraiment tryhard, vraiment vraiment tryhard. J'étais tellement mal quand j'ai vu, c'était un email, il m'a pas appelé et je l'ai appelé direct quand il m'a dit ouais les liens sont morts et tout. Et du coup c'est devenu un super pote. Là il nous fournit tout le Genepi, il va nous faire du Genepi pour Germinal.
Oh là là.
On a rebossé avec Cityscoot, il est vraiment incroyable. Pareil Apital, on bossait avec Mathilde et Laetitia. Mathilde on l'a recruté depuis quand elle est partie de chez Apital, on l'a pas recruté, on débauche pas les gens, j'ai des clients. C'est pas très éthique, mais quelques mois après qu'elle est partie chez Apital, on lui a dit vas-y, elle cherchait des trucs, elle trouvait pas ce qui lui plaisait, elle bosse chez nous depuis 2 mois et c'est juste incroyable, ça se passe hyper bien.
Et du coup, comment vous gagnez vos clients après? C'est bouche à oreille?
Ah ouais, c'est que du bouche à oreille.
Que du bouche à oreille.
Que du bouche à oreille.
C'est entre sociétés c'est que les gens se parlent. C'est qui fait la liaison entre les boîtes? C'est la famille, les amis?
C'est des clients qui parlent d'autres clients et c'est des conférences où on m'invite.
Ouais, moi, toujours les conférences aussi.
C'est des conférences parce que du coup, mes conférences, je suis un peu pushy, tu vois. Genre, j'y vais, tu vois. On m'aime ou on m'aime pas. Alors, il y a plein de gens qui m'aiment pas. Mais il y a des gens qui kiffent et du coup, j'ai donné pas mal de confs. Et à chaque conf, on récupère des clients. Et du coup, ça crée des nouveaux points de contact organiques en plus. C'est des bons clients et les clients qui parlent de nous à d'autres clients. Et du coup, on a grossi comme ça et on n'a pas fait. Et là, on se remet à faire un petit peu d'acquisition parce qu'on veut vraiment passer à l'étape du dessus. Et que là, on fait à peu près on fait 150 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires par mois. Donc là, maintenant, on commence à viser l'acquisition et on arrête de raisonner par opportunité. Mais on dit OK, dans quelle verticale on a les meilleurs et quel type de clients, pour quelle typologie, pour quel type de pays on va cibler. Mais non, au début, mais c'était de la vente. Par contre, moi, je tryhard quand je vends aux gens. Genre, moi, je les lâche pas, quoi. Et quand je suis persuadé que mon produit, c'est ce qu'il leur faut, je lâche pas. On a eu Schneider Electric avec Nicolas, le VP Global Expert, sur leur programme B2B, bref, de toute façon. Et en gros, il faut savoir qu'il m'a écouté, il m'a entendu sur RMC. Je l'ai relancé 17 fois. Et genre, je l'ai relancé 7 fois, il m'a répondu. Il m'a pas répondu. J'ai relancé 4 fois. J'ai eu une demi-heure au téléphone. Il me répondait plus. Je l'ai relancé. Et j'ai compté 17 fois. Et à la fin, on a bossé avec eux. Et on a signé un premier contrat. Et là, on a un deuxième contrat. Et là, on signe un gros, troisième très gros. On a signé
C'était quoi le point de blocage du coup?
C'est juste qu'il a pas le temps. Et en fait,
il compte sur toi pour que tu le relances jusqu'à toi.
Ouais, ou il oublie en fait. Nicolas, il a 10 millions de trucs à faire dans sa vie. Il s'en bat les couilles de Germinal. Et au début, j'ai tryhardé pour tout, mes confs, j'y allais, j'étais à fond, je donnais tout ce que j'avais. Et en fait, moi, c'est en rendez-vous de vente, vraiment, je donne tout ce que j'ai au client, quoi. Je lui donne tout mon savoir, tous mes tips, tu vois. Genre, je triche pas, quoi. Et je suis hyper. Et encore aujourd'hui, c'est moi qui fais une grande partie des ventes de chez Germinal.
Okay, voilà, en tout cas.
Alors, moi, maintenant, on a Marc, etc. Mais je fais encore une grande partie. Et maintenant, Benjamin, Paco, il y a beaucoup de gens qui peuvent vendre dans l'équipe. Mais je fais une grande partie des ventes de chez Germinal parce que. Puis j'aime ça, en fait. Par contre. Il y a un truc, il y a des gens qui m'ont vu déjà, c'est que quand le mec en face de moi, c'est pas le bon produit, j'y crois pas. Je vends pas un mec où je pense pas que c'est le bon produit, j'arrive pas. Tu vois, je suis pas un.
On a déjà refusé des ventes aussi, nous. Le gars, il voulait nous acheter, mais on savait que c'était.
Mais moi, j'ai pas refusé, c'est juste que j'arrive et je suis mauvais parce que j'y crois pas. Et je me dis, ce mec-là, je peux pas lui apporter de valeur. Et du coup, je suis là en mode, je me dis, bon, quand même, ça pourrait être un beau client. Et je suis là, genre, oui. Et tu vois, mes arguments et tout, ça marche pas.
Tu te mens toi-même et ça marche pas. Ok, hyper intéressant.
Un vendeur un peu passionné, moi. Et je pense que c'est ce qui manque dans beaucoup de boîtes, c'est d'avoir un des fondateurs qui est vraiment un vendeur, en fait, qui aime son produit. Et je peux te dire qu'en des fois, on n'avait pas des bons résultats sur les produits avec les clients, je vendais beaucoup moins bien. Parce que quand je ne suis pas persuadé qu'on a le meilleur produit, j'arrive pas. Et vraiment, c'est incroyable. Genre, enfin bref. Et alors bon, si tu as une équipe de vente, quand tu commences à scaler une équipe de vente, c'est le genre de profil que tu veux plus. Hein. Tu veux des gens un peu plus, tu vois, un peu plus prédictibles, qui arrivent à se maîtriser, qui sont pas juste hyper chauds à des moments et pas chauds du tout à d'autres. Quoi. Et voilà, c'est un peu la vente à l'instinct et j'ai vachement progressé sur le sujet.
Trop cool. Il nous reste 5 minutes. Si on revient un petit peu sur tout ça, est-ce que c'est quoi ta plus grosse erreur, tu penses, que tu as fait en tout ce temps-là?
Franchement, c'est bête, mais j'ai tout tellement fait à fond. J'ai tellement donné que je regrette rien de ce que j'ai fait parce que, en fait, les erreurs que j'ai faites au moment où je les ai faites, j'aurais pas pu les éviter, tu vois. Et. Alors, je suis pas un mec qui regrette aussi, donc.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu vois pas ça comme des. Enfin...
Non, moi, je me dis toujours, ok, est-ce que j'aurais pu. Est-ce que, avec les informations que j'avais, j'aurais pu faire différemment? Et la réponse est à chaque fois non, parce que je donne tout et j'ai toujours tout donné. Et aujourd'hui, j'ai une sorte de sérénité, tu vois, sur. Je donne tout ce que j'ai et si on se plante, c'est pas grave, tu vois. Alors moi, je pense pas qu'on va se planter. Je suis persuadé qu'on va faire un truc de malade mental. Mais tu sais, c'est toujours cette alternative de si un jour on se plante, bah c'est pas grave parce que je donne tout. Et à chaque fois que j'ai un moment où je lâche, je me dis, mec, tu dois rien regretter, donne tout et je donne tout ce que j'ai. Donc je pense pas que. Franchement, j'ai pas de regrets. J'ai pas des trucs où je me dis, putain, j'ai merdé. Je suis assez content de là où je suis. Et puis franchement, par rapport à là d'où je viens. J'étais au collège à Vif.
Pourquoi tu t'es chauffé à faire tout ça, à te lancer là-dedans, à donner tout le temps, parce que t'as quand même cette niaque infinie.
Bah au début c'est juste.
T'as toujours animé. D'où tu la tiens? Pourquoi? Bah,
au début juste, mec, j'étais persuadé que j'étais un putain de loser, tu vois. Et je me disais non, mais je suis sûr que je peux faire un truc cool dans ma vie, tu vois. Et genre je donnais tout parce que je me disais, tu vois, mon rêve quand j'ai loupé mes concours en école de commerce, je me suis dit un jour je donnerai un cours à HEC, tu vois.
Ah, il faut.
Genre, c'est con, c'est ridicule, tu vois, comme objectif de vie, donner un cours à HEC. Il y a plein de gens que ça fait rigoler. Bah, déjà, les gens qui ont fait HEC au Polytechnique, qui m'entourent à cette table, qui disent, ouais, bien joué, mec. Mais moi, j'étais là, j'étais dans mon lycée de province, j'avais planté mes concours. Mon père, ma mère, tout le monde était en mode, mec, comment t'as pu louper? T'as eu des bonnes notes toute l'année, je comprenais
ça
pas.
La rage.
J'avais juste la rage. Ouais. En fait, et pendant très longtemps, j'ai juste eu la rage, tu vois. Faut que je réussisse, faut que je montre à tous ces cons que je suis le meilleur. Et petit à petit, ça s'est atténué. Et tu sais, la confiance est venue et j'ai arrêté de juste. Et cette niaque, cette colère, tu vois, qui te fait avancer mais qui te consume, elle s'est remplacée par des émotions plus positives ou juste, putain, j'ai une team de malades, je peux faire un truc de ouf. Et autant, j'ai vraiment eu la rage de, faut que je montre aux gens que je suis le meilleur et faut que je me montre. En fait, c'était aux gens que je montrais que j'étais meilleur, c'est à moi-même. Que j'étais. Et maintenant, je suis arrivé à un stade où je me dis, ok, ce que j'ai fait, c'est cool en fait. Juste, c'est cool, je suis bien avec ça. Et juste, maintenant, je dois faire un truc de malade pour ma team parce que j'ai des gens qui m'ont suivi et je peux pas décevoir. Et franchement, quand je suis démotivé le matin maintenant, avant, je pensais à qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Vas-y, lève-toi et bouge-toi le cul. Je me disais ça avant. Et je pense qu'il y a on est tous un peu des malades mentaux, les entrepreneurs.
Ouais, chacun a son petit tic, quoi.
J'ai un petit souci, hein, y a aucun problème avec ça. Et maintenant, je me dis, ok, t'as des mecs qui comptent sur toi, qui t'ont fait confiance, qui ont quitté leur boîte pour venir chez toi. Ces mecs-là, tu peux pas les décevoir, tu vois. Et c'est vraiment ça maintenant qui fait que je me lève le matin et qui fait que maintenant je suis beaucoup plus stable et j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie et je bosse mais comme jamais et genre je suis hyper calme, je suis hyper déterminé et juste il y a rien qui pourrait se mettre trop loin de mon objectif, tu vois. Et parce que j'ai réussi à mûrir et je suis pas juste une étoile filante qui est en train de briller mais de s'autodétruire.
Alors ça veut pas dire que un maître zen maintenant du coup.
Je descends en gros pour moi l'entrepreneur il descend très haut et il descend très bas et il monte très haut. Et c'est extrêmement dur et tu passes de le kiff complet où t'as l'impression d'être le meilleur où je suis un énorme loser et maintenant et c'est beaucoup plus stable. Tu vois, cet après-midi, j'ai eu 4 prospects dans ma boîte par reco en 30 minutes. J'ai fait ok, cool, genre ça m'a fait sourire. Après, gros problème sur un truc administratif. Ok, c'est pas grave. On le règle next. Tu vois, alors qu'avant, j'aurais fait ouais, trop bien, je suis le meilleur. Et après, ah mon dieu, non, je suis nul, il y a un problème. Et je suis beaucoup plus stable maintenant, je suis beaucoup plus serein, tu vois. Et dans le chaos, tu vois, ce que ça arrive, des fois, c'est le chaos. Genre, tu vois, notre DAF est parti fin août, le chaos. C'est la définition du chaos, hein, ton DAF qui part. Et je suis resté hyper calme, genre.
T'es le capitaine sur la galère.
C'est ça. Et genre, je vois les vagues et je me dis, fine, tu vois. Genre, je sais nager, on va y arriver, tu vois. J'ai une bouée. Si jamais le bateau coule, j'ai une bouée, t'inquiète. Mais en attendant, on va quand même essayer d'aller dans la bonne direction, quoi.
Trop cool. C'est quoi ton but à terme avec Germinal? Du coup, là, tu fais vivre des gens.
Moi, j'ai dit, tant que les 50 premiers salariés ne sont pas millionnaires, on s'arrête pas.
C'est ça? C'est les 50 ouais. premiers salariés millionnaires?
Ouais.
Tu leur reverses pas mal de thunes?
Ouais, bah, on a des BSPCE, on est assez cool sur les BSPCE, je pense. Et on reverse 40% du résultat net aux salariés, sous forme de prime. Et 60%, le reste, on le réinvestit.
Ça correspond à combien de CA, du coup, t'as fait le calcul?
L'année dernière, ça fait 9,4 primes.
Non, pour arriver au million.
Ah, pour arriver au million. Non, là, faut faire 1 milliard de valo.
Ok, c'est 1 milliard de valo du coup.
Ouais, mais l'objectif, c'est pas le milliard. Je m'en fous du milliard. Franchement, ça sert à quoi là? Aujourd'hui, moi, je te dis, je dépense 700 balles par mois. Tout compris. Avec mon loyer et tout à Grenoble, j'habite à Grenoble, je fais des allers-retours à Paris.
Tu fais toujours des allers-retours à Paris?
Ouais, toujours, ouais.
Et, vie privée, vie perso, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, je m'en fiche de. Aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ma vie parce qu'en fait, je suis un mec qui dépense rien. Je dépense 700 euros par mois. Là, je revendrais 10% de mes parts. Enfin, voilà, j'ai pas de problème. L'immobilier, il est pas très cher par rapport à Paris. Je suis un mec simple. Je m'achète une paire de pompes par an chez Asphalt et je les change.
Tu veux redistribuer le succès
Et je me dis, moi, je fais ça pour mon équipe. Et quand je joue au rugby, je fais ça pour ma team, tu vois. Et franchement, depuis que l'ego est sorti de ce truc, alors des fois il y a des bouffées d'ego, ce que j'appelle des crises d'ego, tu sais, on n'est pas parfait, hein, ça
arrive. Faut bien s'amuser le thème d'histoire, quand même.
Voilà. T'étais là, tu te dis ah là là machin, et en fait non, tu te laisses emporter, tu vois. Mais depuis que je suis comme ça, vraiment je suis plus stable, je suis plus serein, et je pense que c'est là où je peux vraiment monter un truc de fou, parce que j'ai les bonnes motivations, tu vois. Je suis passé de j'ai des objectifs parce que je suis un mec qui a pas confiance en lui à j'ai des aspirations, je suis calme, je suis complet et j'y vais, y a rien qui peut m'arrêter, tu vois.
Trop bien.
Et c'est ça mon objectif. Voilà, mon objectif, c'est il y a que ça mon objectif, pour le coup c'est vraiment ma team. D'ailleurs on est hyper transparent sur les salaires. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde, la rémunération. Moi, j'ai donné le bilan comptable aux salariés. Ils ont accès au compte de l'entreprise. Ils peuvent tout voir. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
Super. Un dernier mot.
Bah moi, ce que je voudrais dire aux entrepreneurs, aux mecs qui veulent se lancer, que ce soit les intrapreneurs ou les entrepreneurs, juste quand vous y allez, juste réfléchissez pas trop, les gars, les nanas. Réfléchissez pas trop, juste faites des trucs. Ce qui tue une boîte, c'est de réfléchir. Ce qui tue une boîte la première année, pas quand on a 3 ans, qu'on est 50, qu'on est 100, qu'on a
le même le premier mois. Hein.
Ce qui tue une boîte, c'est de réfléchir. Il y a un moment, moi je me dis toujours, je dois réfléchir 5% de mon temps. Le reste du temps, je dois faire des trucs. Je dois vendre, je dois être sur le terrain, je dois envoyer des emails, je dois motiver mon équipe, je dois faire des points avec eux. Et tu passes 5% du temps à faire des plans, à réfléchir, pas plus. Si tu passes plus de 5% de ton temps, si tu passes plus de 2 putains d'heures dans ta semaine à réfléchir, c'est que t'es pas en train de monter une boîte, c'est que t'es en train d'essayer de coller ta pensée sur un rêve qui aboutira jamais, quoi.
Ouais, ça correspond à un biais qu'on voit très souvent chez les intrapreneurs, les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est qu'ils veulent avoir toute l'information nécessaire du monde pour être sûr qu'ils ont pris le bon choix.
Il y a aucune info
avant de se lancer.
Un entrepreneur, alors, c'est prendre des décisions rapides avec un niveau d'information faible.
Avec un niveau d'information faible. Ouais.
Et aujourd'hui, moi, la seule chose que je sais très bien faire dans cette boîte, c'est quand on vient avec un problème, j'ai une solution en 30 secondes. Deux solutions, je suis un génie, solution écartée. Soit je sais que j'ai un niveau d'information faible, j'ai que ça comme info. Je fais des probabilités 40, 60, 60. De toute façon, j'ai pas de regrets à avoir. Je pourrais y réfléchir 2 mois. J'aurais pas plus d'infos. Donc, go.
Et après, t'apprends sur le chemin, en fait.
Et après, t'apprends sur le chemin. Et après, du coup, t'avances. T'as un niveau d'information qui est de plus en plus élevé. Parce que t'as de plus en plus de clients, de plus en plus de marchés, etc. Et là, il faut commencer à réfléchir. Parce que quand t'as bossé avec 160 clients dans 10 pays dans le monde, faut commencer à se dire, OK, c'est sur quelle verticale, qui on est, là où on est le plus rentable, là où c'est le plus intéressant. Et là, tu commences à dire, OK, dans quel pays on va? Et là, faut te poser, faut regarder ta data, faut regarder tes chiffres, faut réfléchir, faut faire des hypothèses, et parce que ça commence à être intéressant. Mais la première année,
pas le premier mois, ouais.
La première année, le premier mois, faut juste y aller, faut juste et faites-vous plaisir, quoi. Faut pas avoir de regrets. De toute façon, ça sert d'avoir des regrets. Tant qu'on a fait des trucs et tant qu'on s'est éclaté, c'est cool l'entrepreneuriat.
Ok, bah écoute, trop cool, Grégoire.
Merci.
Merci d'avoir partagé toute ton expérience à la galère et toute cette niaque qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent. À la prochaine.
Allez, soyez forts tous.
Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.